histoire, l'histoire, écrit Jean Genet, n'est qu'un trucage pour faire de nous des hommes faussés. Alors ça y est, on y est. L'épisode sur la guerre d'Algérie. J'ai envie de faire cet épisode comme de me pendre. C'est pas vrai. J'ai très envie de faire cet épisode. Mais à côté de celui-ci, la Révolution française, c'était de la gnognotte. C'était l'ours Collargol. Robespierre divise encore, certes, mais c'est rien comparé à ce qui va suivre. La guerre d'Algérie s'est concrètement déroulée pendant 7 ans et demi, entre 1954 et 1962. C'est avec celle d'Indochine la plus violente des guerres de décolonisation française du siècle. Et c'est sans le moindre doute celle dont les répercussions sont les plus fortes à notre époque. En Algérie, on parle de révolution algérienne, de guerre de libération nationale ou de guerre d'indépendance algérienne. En France, le terme de guerre d'Algérie n'a été officiellement adopté par le Parlement qu'en 1999 sous la présidence de Jacques Chirac. Pendant longtemps, le terme employé en France était les événements d'Algérie. Étrange euphémisme. 7 ans d'événements, ça donne matière à réflexion.
Sentez pas le courant d'air du métro ? Pas délicieux ?
Ok, Marilyn. Plus cette affaire est finie, plus il est évident qu'elle ne finira jamais, avait dit Peggy de l'affaire Dreyfus. Il est évident que cette guerre ne finira jamais non plus. Regardez Apathy à la télévision. Regardez Alain Duhamel face à Apathy.
On n'y est pour rien. Les colonisateurs, c'est pas nous. C'est fini, c'est une autre époque. C'est une autre société, c'est une autre France et ce sont d'autres Français.
Il est gonflé. La décolonisation est moins vieille que lui. L'indépendance est née il y a moins longtemps que Duhamel. Vous me direz, c'est pas dur. Peu importe le côté par lequel on la regarde, on n'en est pas sorti. C'est pas fini. L'Algérie, pour plein de raisons, les Français ont vraiment eu du mal à en faire leur deuil. Ils ont eu du mal à la lâcher. Ils se sont comportés comme des porcs. C'est peu de le dire. Et c'est méchant pour les porcs.
La colonisation est-elle un crime ?
La colonisation est-elle un crime ?
Oui, dans notre histoire, la colonisation est-elle... On est français, on a une histoire, comment ? Non, voilà, très bien.
Étranges événements, étranges guerres, d'une disproportion totale, d'un déséquilibre. Dans celle-ci, les indépendantistes algériens, principalement réunis sous le nom de Front de Libération Nationale, le FLN, et leur armée, l'ALN, armée de libération nationale, vont s'opposer à l'armée française et ses innombrables salopards. Bijard, Massu, Ossarès, et puis Mitterrand, Guy Mollet, Le Pen, De Gaulle. À ses commencements, l'armée du FLN ne possède qu'un millier d'hommes. À son apogée, en 1958, elle en comptera 90 000. Face à cette toute petite armée, la France va déployer ce qu'on a appelé la plus formidable armada jamais vue en opération sur un territoire colonial. Plus de 1600 avions, 250 hélicoptères. Puis ce sera l'appel au contingent à partir de 1955. Jusqu'à l'année 1962, c'est plus de 300 000 militaires actifs et surtout plus d'un million d'appelés qui ont été envoyés en Algérie. Oui, du Richelieu, du Louis XIV, du Napoléon. On leur balance du bidas au poids. Mais face à cette France de Frankenstein ressuscitée en mode zombie, l'Algérie prouvera que c'est pas le nombre qui compte. C'est la détermination. C'est la certitude que notre combat est juste. La guerre d'Algérie sera un intense moment de politisation. Ce sera très bien compris par Frantz Fanon dans Les Damnés de la Terre en 1961. Politiser, c'est ouvrir l'esprit. Ce n'est pas faire un discours politique, c'est s'acharner avec rage à faire comprendre aux masses que tout dépend d'elles, qu'il n'y a pas de démiurge, qu'il n'y a pas d'homme illustre et responsable de tout, mais que les mains magiciennes ne sont en définitive que les mains du peuple. Nous, Algériens, avons compris très rapidement ces choses, car aucun membre d'aucun sommet n'a eu la possibilité de se prévaloir d'une quelconque mission de salut. C'est la base qui se bat en Algérie. Et cette base n'ignore pas que sans son combat quotidien, héroïque et difficile, le sommet ne tiendrait pas. Alors, comment on va raconter cette histoire ? On va partir d'une des héroïnes venues de la base, cette base qui s'est battue. Une des femmes de la révolution algérienne, une des poseuses de bombes de la zone autonome d'Alger, celle qui devint un mythe avant même la fin de la guerre, Jamila Wired. Alors, est-ce qu'on est prêt ?
Tout ça, j'y crois pas.
Oui, on est prêt. Mon nom est Paco Mthielman, je ne suis pas historien, je suis exégète. Ce programme n'est pas un programme d'histoire, mais une danse, une fête, une procession. Regardez-le comme vous regarderiez une fresque retrouvée derrière la peinture d'un mur de votre maison. Pour cet épisode, j'ai reçu l'aide des historiens Raphaël Carbone et Marie-Aimée Romieux, de la documentariste et scénariste Adila Benedjadzou, du consultant historique et amical Amar Belmabrouk, du streamer Iliès de la Zawa Prod et de l'écrivain et journaliste Delphine de Thon. Alors, si vous n'aimez pas mon histoire de France, écrivez la vôtre. I'm an alligator. I'm a mama papa coming for you. I'll be a historian bitch for you. Bienvenue dans L'Empire n'a jamais pris fin, saison 3, épisode 5. Guerre d'indépendance algérienne, faites entrer les colonialistes. Jamila Bouhered est née en juin 1935 à Alger, dans une famille de la classe moyenne. Elle a 22 ans quand elle rejoint le FLN. C'est entre 1956 et 1957, pendant ce moment de la guerre d'indépendance qu'on a appelé la Bataille d'Alger. Jamila Bouhered entre dans le réseau bombe de Yacef Saadi, qui dirige la zone autonome d'Alger. Yacef Saadi, le fils d'un boulanger de la Casbah, militant indépendantiste depuis 1945, très intelligent, très inventif, chargé par le FLN du commandement militaire de la région algéroise. Ce qu'il fait, épaulé par un bandit de 26 ans, métamorphosé en révolutionnaire fervent, Ali Amara, devenu lui aussi un mythe sous le nom d'Ali Lapointe. Le 10 août 1956, des colons font un attentat dans la Casbah, rue de Thèbes. Plusieurs dizaines de morts, principalement des enfants. La foule veut immédiatement se venger. Yacef Saadi les arrête et leur dit que le FLN va s'en charger pour eux. Il planifie alors plusieurs attentats synchronisés dans des lieux de sociabilisation des Européens d'Alger. Le 30 septembre 1956, Jamila Bouhered dépose une bombe dans la salle de l'agence Air France de l'immeuble Mauritania. Mais celle-ci n'explose pas. Le branchement a été mal fait et la minuterie est défectueuse. Le même jour, une bombe explose dans le café étudiant le plus fréquenté de la ville, la cafétéria de la rue Michelet, tandis qu'une autre explose au Milk Bar, au coin de la place Bugeaud. Le 9 avril 1957, Jamila Bouhered est blessée lors d'une fusillade dans la Casbah, rue du Sphinx. L'omoplate cassée, elle est arrêtée. On la torture pour lui faire avouer la cachette de Yacef Saadi. Trois jours durant, témoignera-t-elle, les 17, 18 et 19 avril, j'ai subi le supplice de l'électricité. Des électrodes m'ont été placées dans le sexe, les narines, les oreilles, la bouche, sous les aisselles, sur le bout de mes seins qui sont encore brûlés, sur mes cuisses qui portent encore des marques. La première séance, dans la nuit du 17 au 18 avril, a duré de 21h à 3h, jusqu'à ce que je m'évanouisse et délire. C'est en juillet 1957 que Jamila Bouhered va être défendue par Jacques Vergès, un avocat anticolonialiste qui comprend la lutte des Algériens et ne condamne pas les violences du FLN. Lorsque le procès commence, sous les menaces de mort, les grognements des parachutistes présents dans la salle, Vergès demande à haute voix « Sommes-nous ici dans un tribunal militaire ou un meeting d'assassinat ?» Jamila Bouhered est condamnée à mort le 15 juillet 1957. Lorsque le président lui lit sa sentence, elle éclate de rire. « Ne riez pas !» s'écrie le président. « C'est grave !» Pour sauver Jamila, Jacques Vergès va utiliser le pouvoir de l'opinion. Il va donner à son procès un retentissement public. Il va mobiliser la presse, et même la presse internationale. Vergès et le FLN ont compris l'importance de porter leur combat à l'international pour que la France se sente observée par le reste du monde. Observée, voire jugée. En 1957, Vergès co-signe avec l'écrivain Georges Arnaud un livre publié aux éditions de Minuit, pour Jamila Bouhered. Dès 1958, un film lui est consacré, Jamila, par le cinéaste égyptien Youssef Chahine. La chanteuse libanaise Fayrouz lui dédie une chanson. Jamila Bouhered n'a que 23 ans elle est déjà un symbole, le symbole de la lutte pour l'indépendance. Ce sont maintenant des militants du monde entier, même des figures politiques et des célébrités, qui vont demander sa grâce et sa libération. Djamila Bouhered est devenue le visage de la révolution. Djamila Bouhered sera graciée en 1959 sans même avoir demandé sa grâce et libérée de prison à la suite des accords d'Évian en 1962. Après l'indépendance de l'Algérie, elle épousera Vergès, avec qui elle dirigera le journal Révolution africaine et avec qui elle aura 2 enfants. Elle divorcera durant la période de 8 ans, pendant laquelle celui-ci va disparaître sans donner aucune explication et dans des circonstances encore aujourd'hui mystérieuses. Refusant toute fonction politique, honneur et interview, Djamila Bouhered est encore vivante à l'heure où nous enregistrons cet épisode. Le combat de Djamila Bouhered, celui de toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans cette guerre, c'est la fin de la colonisation. La colonisation, celle-ci a commencé en 1830, sous le règne de Charles X, le deuxième petit Bourbon après la deuxième Restauration. Lorsque Charles X décide de mettre le grappin sur l'Algérie, celle-ci est alors dirigée par Hussein bin Hussein, dit Hussein D, un homme issu de la milice des janissaires recrutés dans le peuple de Constantinople et de Smyrne. L'Algérie fait partie de l'Empire ottoman, mais jouit d'une certaine autonomie. Un prêt, contracté par la France en vue de s'approvisionner en blé et jamais remboursé, envenime les relations entre Hussein et Charles X. Et le Charlot décide, comme un vulgaire Sarkozy,
quelle indignité,
de faire la guerre pour ne pas payer ses dettes. Les Français déboulent en Algérie, virent Hussein, expulsent les Turcs et ils s'emparent du trésor du Dey, trésor d'une valeur de 150 millions de francs. Oui, c'est à vomir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
C'est une honte.
Accrochez-vous. C'est que le début. Charlot ne va même pas en profiter. On est le 5 juillet 1830, moins d'un mois plus tard, il est fichu dehors à la suite des Trois Glorieuses, l'insurrection des Parisiens. Et il est remplacé par un autre tocard, Louis-Philippe. Oh mais qui voilà ? Égalité 2 ! Le gouvernement veut son gros morceau d'empire, alors il ne va pas lâcher l'Algérie. Ce sera le combat contre Abdelkader, l'arrivée du général Bugeaud. Bugeaud, responsable du massacre de la rue Transnonain à Paris en 1834 et futur bourreau de l'Algérie. L'abject Bugeaud, qui déclare à la Chambre en 1840, je cite Bugeaud, « Là où il y a de l'eau fraîche et des terres fertiles, il faut placer des colons sans se préoccuper de savoir à qui ces terres appartiennent. » Bugeaud sera responsable des enfumades du Dara en 1845. Plus de 700 Algériens, des familles, qui s'était réfugié dans une grotte, que Bugeaud va exterminer par asphyxie, avant d'écrire « Il fallait un exemple terrible qui jeta la terreur parmi ces fanatiques et turbulents montagnards. » C'est également le lieutenant-colonel Matagnac qui écrit en 1843 « Vous me demandez ce que nous faisons des femmes que nous prenons ? On en garde quelques-unes comme otages, les autres sont échangées contre des chevaux et le reste est vendu à l'enchère comme bêtes de somme. » Voilà comment il faut faire la guerre aux Arabes. Tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans, prendre toutes les femmes et les enfants, en un mot, anéantir tout ce qui ne rampera pas à nos pieds comme des chiens. Tout anéantir. Et ensuite prétendre que la terre était vierge. Que tout était encore à faire. Une des spécificités de la conquête française de l'Algérie a été d'affirmer, contre l'évidence, que ce territoire était sans histoire ni culture. Écrit Karima Lazali dans Le Trauma colonial. Très grand livre. Imposés au début du XXe siècle, les protectorats au Maroc et en Tunisie n'ont pas fait l'objet par la France de la même entreprise d'éradication du passé indigène. Conquête de la monarchie constitutionnelle, l'Algérie restera, malgré les évolutions du champ politique français, le lieu où s'exerce la violence d'un pouvoir monarchique et totalitaire. La haine des principes républicains sera une constante de la politique coloniale. Le refoulé monarchique est déplacé sur un autre territoire, où il exerce ses pleins pouvoirs tout au long de la colonisation de l'Algérie. Tout cela est vrai. Même s'il faut y ajouter un autre fantôme, venu avec un énième tocard, Bozzo Napoléon III, le fantôme de la conquête des Gaules par Jules César. Souvenons-nous du discours de Napoléon III, César de Wish,
aux Algériens en 1865. Vaincus, ils sont semblables aux Gaulois.
Promis à ressusciter dans une civilisation nouvelle. Le césarisme fait le bonheur des peuples. Tout en honorant la mémoire de Vercingétorix, il ne nous est pas permis de déplorer sa défaite. Admirons l'amour sincère de ce chef gaulois pour l'indépendance de son pays, mais n'oublions pas que c'est au triomphe des armées romaines qu'est due notre civilisation, institutions, mœurs, langue. Tout nous vient de la conquête. Mais rien à faire, les Gaulois d'Algérie ne se soumettent pas. Ce sera l'insurrection de Lala Fatma Ensoumer entre 1851 et 1860. Lala Fatma Ensoumer, que l'islamologue mystique Louis Massignon appellera la sœur kabyle de Jeanne d'Arc. Lala Fatma Ensoumer était surtout la descendante de la Kaïna, guerrière berbère du 7e siècle qui s'opposa, elle, à la conquête des Omeyyades. Puis ce sera la révolte du cheikh El Mokrani en 1870, pendant la guerre vite perdue de Bozzo contre la Prusse. Et ce seront les Algériens déportés en Nouvelle-Calédonie en compagnie des Parisiens de la Commune, sur le bateau du rêve de Louise Michel. Les Arabes et les pauvres sur le même bateau. Sous la Troisième République, c'est encore pire. C'est la soumission des Algériens au code de l'indigénat, un régime disciplinaire d'exception. Et c'est Jules Ferry, déclarant en 1885 à la Chambre « Si nous avons le droit d'aller chez ces barbares, c'est parce que nous avons le devoir de les civiliser. Il faut non pas les traiter en égaux, mais se placer au point de vue d'une race supérieure qui conquiert. On a vu votre supériorité morale à l'œuvre, il n'y avait pas de quoi se vanter. L'idée d'un Occident civilisateur. Édouard Saïd en repéra ce qui était peut-être la première mention significative dans un texte de Chateaubriand. Je cite, bien malheureusement, Chateaubriand. N'apercevoir dans les croisades que des pèlerins armés qui courent délivrer un tombeau en Palestine, c'est montrer une vue très bornée en histoire. Il s'agissait non seulement de la délivrance de ce tombeau sacré, mais encore de savoir qui devait l'emporter sur la terre, ou d'un culte ennemi de la civilisation, favorable par système à l'ignorance, au despotisme, à l'esclavage, ou d'un culte qui a fait revivre chez les modernes le génie de la docte antiquité. Et abolit la servitude. Et ce racisme de con ne sera vraiment pas rare, tellement pas. On n'oubliera pas Tocqueville, dont les libéraux sont toc-toc. Tocqueville, qui a pu écrire en 1847, ne dira-t-on pas à voir ce qui se passe dans le monde, que l'Européen est aux hommes des autres races, ce que l'homme lui-même est aux animaux. Non, mec, je ne dirai pas ça. Mais parfois, je me dis que l'Européen, aujourd'hui l'Américain, est aux autres hommes ce que le parasite est aux autres espèces. Parce que c'est exactement ce que va être la France en Algérie. Un parasite divisant la population en deux catégories distinctes, soumises à des statuts juridiques inégaux, l'une profitant de l'autre. D'une part, 1 million d'Européens, qu'on appellera plus tard les pieds noirs, un terme ambigu, apparu à la fin de la Libération, sans qu'on ne sache trop l'origine. Les pieds noirs seraient donc ces Français à qui on avait promis l'Eldorado, puis ces Espagnols, ces Italiens ou ces Maltais qu'on aura convaincus de venir piller les terres algériennes. À ces Européens vont être associés les Juifs d'Algérie, qui bénéficieront des mêmes droits qu'eux à partir du décret Crémieux en 1870, mais qui sont présents depuis plus longtemps, certains depuis l'Antiquité, d'autres après la Reconquista espagnole entre le XIVe et le XVIe siècle. On considère qu'ils étaient environ 15 000 à l'arrivée des Français en 1830 et 150 000 en 1962. On les appelle parfois pieds noirs, mais ce sont plutôt des Juifs d'Algérie. D'autre part, 9 millions d'autochtones, arabes, kabyles, chaouis, etc., que les Français appellent pour l'instant les musulmans et qu'ils considèrent comme leurs sujets. Des sujets d'une république qui se prétend civilisatrice et qui pratique un système d'apartheid. Les musulmans sont soumis aux mêmes devoirs que les Européens, ils sont mobilisables par le contingent. Pendant la Première Guerre mondiale, 26 000 musulmans ont laissé leur vie entre Verdun et le chemin des Dames. Ils ont les mêmes devoirs donc, mais ils n'ont pas les mêmes droits. Sujets, mais pas citoyens, ils ne disposent pas de la nationalité française et sont même sans droit politique jusqu'en 1947. Et encore. Ensuite, ils restent soumis à des inégalités sérieuses. 1 million d'Européens vont jouir d'un droit de vote égal à celui de 9 millions de musulmans. Oui, politiquement, un blanc vaut 9 Arabes. C'est ça, être civilisé. C'est ça. Et puis, c'est l'accès à l'éducation. Chez les Européens, 200 000 enfants sont accueillis par 11 400 écoles. Chez les musulmans, 1 250 000 enfants sont accueillis par 699 écoles. En gros, un garçon sur 5 et une fille sur 16 sont scolarisés. Civilisateurs, mais pas trop. On abolit la servitude, mais avec modération. Enfin, cette discrimination s'exprime à travers l'impôt indigène prévu par le Code de l'indigénat et dont les Européens sont exonérés. Comble de l'ironie mauvaise, cet impôt indigène sert à construire des infrastructures exclusivement destinées aux colons. Civilisation bien ordonnée commence par soi-même. Les Arabes travaillent pour les Blancs, les Arabes payent pour les Blancs, les Arabes meurent pour les Blancs. La conséquence, c'est que l'essentiel de la population autochtone est pauvre. Et le million de pieds noirs est sinon riche, ils sont pas tous riches. Plus riches qu'elles. Ils possèdent les meilleures terres agricoles. Le chiffre des terres livrées jusqu'en 1937 par l'État à la colonisation, c'est 1 657 405 hectares, c'est-à-dire 60% du domaine foncier. C'est pourquoi il n'est pas scandaleux, il est carrément fou d'entendre Macron en 2022 parler des rapports entre la France et l'Algérie comme d'une histoire d'amour qui a
sa part de tragique. Non mais il faut pouvoir se fâcher pour se réconcilier.
On sait depuis Louis XIV et puis même depuis Henri IV, le roi Stinkfoot, que les hommes de pouvoir ne peuvent pas comprendre l'amour. Pas d'égalité, pas d'amour. Mais tout de même, quiconque compare la colonisation à une histoire d'amour a la mentalité d'un tueur psychopathe. La paix coloniale. La philosophe Simone Veil en a parlé et bien parlé, elle. Je cite Simone Veil. Si la population de la colonie a le sentiment que le vainqueur compte prolonger indéfiniment le rapport de conquérant à conquis, il s'établit une paix qui diffère de la guerre uniquement par le fait que l'un des camps est privé d'armes. Et un journal de gauche qui disait des colonies qu'elles étaient des membres palpitants de la patrie. Simone Veil répondait « palpitants, oui ». Sous la faim, les coups, les menaces, les peines d'emprisonnement ou de déportation, devant l'aspect redoutable des mitrailleuses ou des avions de bombardement, une population domptée, désarmée, serait palpitante à moins. Alors, ok, les Français ont construit des routes et installé le gaz et l'électricité. Mais comme le dira très justement Messali Hadj, si les Français ont fait beaucoup, ils l'ont fait pour eux-mêmes. Messali Hadj. Sans doute la personnalité politique algérienne la plus importante avant l'arrivée du FLN. Certes, l'Algérie a connu de nombreux mouvements de résistance avant lui. Mais Messali Hadj est la personnalité qui, de la première moitié du XXe siècle jusqu'en 1954, a le mieux incarné la demande d'égalité et d'indépendance en Algérie colonisée. Ahmed Messali, dit Messali El Hadj ou Messali Hadj, né en 1898, fils d'un artisan de Tlemcen. Il sert dans l'armée française en 14-18. Puis il part travailler en France, où il épouse une militante anarcho-syndicaliste, Émilie Bruscan. Ensemble, ils ont deux enfants. Messali Hadj devient secrétaire général de l'Étoile nord-africaine en 1926. L'Étoile nord-africaine, une association initialement impulsée par le Parti communiste français, mais que Messali Hadj va transformer contre celui-ci en organisation revendiquant l'abrogation du code de l'indigénat, l'évacuation des troupes françaises d'occupation, la récupération par les Algériens de leurs biens sous séquestre, leur droit à l'enseignement et au libre exercice de leurs droits politiques. En bref, l'indépendance. Et vous savez quoi? Les politiciens français vont être abjects avec Messali Hadj. Pas vraiment une surprise. Même ceux de gauche. Pas vraiment une surprise non plus. Alors que l'Étoile nord-africaine appelle à voter pour le Front populaire en 1936, c'est le Front populaire qui l'a dissous en janvier 1937. Le motif? Pas clair du tout. Reconstitution de ligue dissoute, comme s'il s'agissait d'un groupe paramilitaire ou d'une organisation fasciste. On laisse même planer un doute sur un rapprochement entre les indépendantistes algériens et les fascistes. Ce qui est faux et insultant. Non seulement à l'époque, mais également ensuite, Messali Hadj va s'opposer à toute forme de collaboration avec les nazis et dénoncera les persécutions des juifs. Le Front populaire avait trouvé une excuse pour dissoudre une association qui allait contre ce que la France considérait encore comme ses intérêts bien compris. Traiter les Arabes de nazis pour mieux s'offrir le luxe d'ignorer leurs demandes légitimes, c'est un sport que les Blancs adorent pratiquer. Ils le pratiquent toujours.
Free Palestine, le nouveau, si je puis dire, Al Hitler.
Une personne à l'époque en avait été, même plus dégoûtée, confirmée dans son dégoût pour le Front populaire et pour les gens qui s'obstinaient à le défendre malgré tout. Simone Veil. Encore elle. On croirait vraiment, à entendre la plupart de nos camarades, que le Front populaire possède un droit absolu, un droit divin au soutien, à la fidélité des opprimés, y compris ceux qu'il foule aux pieds. Deux mois plus tard, en mars 1937, Messali Hadj fonde le Parti du peuple algérien, le PPA. Le 27 août 1937, il est arrêté et emprisonné. Puis le PPA entre dans une ère de clandestinité qui durera tout le long de la Seconde Guerre mondiale. Après une grève de la faim, Messali Hadj obtient le statut de détenu politique. Il est condamné aux travaux forcés, puis contraint à la résidence surveillée, déplacé de ville en pays, jusqu'à Brazzaville, où il est assigné le 23 avril 1945. Deux semaines seulement avant les massacres de Sétif et de Guelma. Vous vous en souvenez ? Le premier jour de paix après la capitulation nazie, alors que la France fait la fête, l'Algérie attend un geste de sa part. Après tout, parmi les 250 000 soldats français débarqués en Provence en août 1944 avec les Alliés, deux tiers étaient issus d'Afrique du Nord. Cette victoire, c'est aussi leur victoire. Ce n'est pas l'avis du gouvernement français. Les civilisateurs. Le 8 mai 1945, manifestation pacifique à Sétif. Sur les pancartes, on peut lire « Vive l'Algérie indépendante ». On peut lire aussi « Libérez Messali ». Et on brandit le drapeau du futur État algérien. La suite, hélas, on la connaît. Les civilisateurs massacrent les Algériens. Le gouverneur général de l'époque, Yves Chataigneault, avance le chiffre de 1000 morts. Une enquête militaire parle de 9000 morts minimum et précise que le nombre réel des victimes est certainement plus du double, soit 20 000 morts. Le consul des États-Unis fait à son tour une enquête qui conclut à 30 000 morts. L'État algérien parlera, lui, de 45 000 morts. On ne sait pas. On sait juste qu'il y en a eu énormément. Et non seulement ça, mais on brûle ensuite les cadavres dans des fours à chaud. L'écrivain et poète Kateb Yassine, qui avait alors 15 ans, se souviendra. C'était la fête à Sétif. La victoire contre le nazisme. On a entendu sonner les cloches et on nous a annoncé qu'on allait nous libérer. Je suis sorti de l'internat et j'ai vu des officiers français qui sablaient le champagne sur le trottoir. Et puis à un moment donné, j'ai vu arriver un immense cortège. À peine a-t-on fait quelques pas que c'est la fusillade. L'esprit de la résistance avait fait espérer des relations libérales et égalitaires entre la France et les colonies. Mais la mystique de l'Empire, représentée et défendue par les gouverneurs, l'emporta. 14 membres de sa famille sont tués au cours du massacre. Kateb Yassine se fait lui-même arrêter et torturer. Sa mère en devient folle et ne s'en remettra jamais. Kateb Yassine, l'auteur du sublime Nejma en 1956. Kateb Yassine partagé entre son amour des poètes français, Nerval, Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud, et sa lucidité politique qui le fera s'opposer frontalement, violemment, à la France et à sa politique colonialiste, mais aussi à ce qu'on appelle la francophonie. Je cite Kateb Yassine. J'écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas français. Écrivain trilingue, français, arabe, berbère, le rapport de Kateb Yassine à la langue française est tout autre. Écrire en français, c'est presque, sur un plan beaucoup plus élevé, arracher le fusil des mains d'un parachutiste. Tu m'as apporté ton monde. Bon, maintenant je le connais et c'est à moi de te l'expliquer. Le PPA, interdit après 1945. Messali Hadj crée le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques, le MTLD, qui revendique toujours l'indépendance de l'Algérie. Qui, après bien des tergiversations, voudrait triompher par voie démocratique et se présente lors des élections pour obtenir des places dans l'Assemblée algérienne. Oui bon, c'est compté sans le trucage des élections. Trucage à répétition. En 1948, en 1951, enfin en 1954, par trois fois, les civilisateurs vont bourrer les urnes d'une façon extrêmement grossière. Dans certains villages, on ne remet pas de carte d'électeur. Dans d'autres, des policiers armés et soutenus par des tanks intimident ceux qui voudraient voter pour le MTLD. À Guelma, les candidats du MTLD obtiennent 6544 voix au premier tour, mais seulement 96 au second. À Djelfa, 0 voix pour le MTLD sur 500 votants, mais 800 pour le candidat du gouvernement. 800 voix alors qu'il n'y a que 500 votants. Fatigue. Pour les indépendantistes conséquents, c'est juste plus possible. Il semble évident que le MTLD, dans une sorte de stratégie de la respectabilité, se fait désormais bananer à répétition. On perd du temps. L'indépendance, c'est maintenant ou jamais. Pourquoi maintenant ? Tout d'abord parce que la France a démontré, lors de la Seconde Guerre mondiale, qu'elle n'était plus une grande puissance. La soumission du paillasson Pétain aux nazis, puis une libération où De Gaulle a joué un rôle, on va être gentil, marginal, laisse songeur sur la possibilité que la France soit en mesure de se maintenir militairement et politiquement en tant qu'empire. De sa part, jouer encore à Richelieu ou à Napoléon, ça n'a plus de sens. Et de la part des Algériens, baisser la tête quand elle hausse le ton, encore moins. Et puis, il y a l'exemple tout frais de la guerre d'Indochine. Guerre qui s'est achevée par la défaite de la France à Dien Bien Phu le 7 mai 1954. Pour la première fois dans l'histoire moderne, des colonisés avaient vaincu l'armée d'une puissance européenne. Presque exactement 9 ans après les massacres de Sétif et de Guelma. Alors il se passe que cette fois, ça ne se passera pas comme ça.
Pas comme les autres fois.
Les indépendantistes, qui ont compris qu'attendre ne servait à rien, font scission avec le MTLD et avec Messali Hadj. Ils créent le Comité Révolutionnaire d'Unité et d'Action, le CRUA, bientôt renommé FLN, Front de Libération Nationale. Le 25 juillet 1954, ils se retrouvent dans une petite villa du Clos Salambier, sur les hauteurs d'Alger. Ils, ces 22 Algériens qui ont décidé de passer à la lutte armée. 22 Algériens qui se prononcent pour la révolution illimitée jusqu'à l'indépendance totale. 5 d'entre eux forment un conseil de la révolution. Mostefa Ben Boulaïd, Mohamed Boudiaf, Larbi Ben Midi, Didouche Mourad, Rabah Bidat. Ils sont relativement jeunes. Leur moyenne d'âge est de 32 ans. Le plus vieux, Mostefa Ben Boulaïd, a 37 ans. Le plus jeune, Rabah Bidat, en a 29. Ils sont diplômés et ont arrêté leurs études supérieures pour se lancer dans la révolution. Larbi Ben Midi vient d'une famille de notables constantinois, Mohamed Boudiaf, d'une famille aisée déclassée, Mostefa Ben Boulaïd est le fils de petits propriétaires fonciers. Ce sont tous des anciens du MTLD, des anciens de Messali Hadj. Mais c'est fini. Ils optent désormais pour la lutte armée. Et ils abandonnent également ce qu'ils estiment être une sorte de culte de la personnalité. Messali Hadj était appelé Zaïm, l'unique. Le FLN n'aura pas de visage, ou alors celui du peuple algérien tout entier. Le but du FLN est l'indépendance de l'Algérie par tous les moyens. Par tous les moyens, ça veut dire aussi par la violence. Mais comment combattre un occupant quand on n'a ni armée ni arme? Eh bien, en commettant des attentats. Ce sera une trentaine d'attentats éparpillés dans le pays dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954. Des attentats faits à la bombe artisanale. À Alger, 3 bombes explosent à 1h du matin. Au gaz d'Algérie, à Radio Alger et au pétrole Mauri. Ailleurs, ce sont des casernes, des postes de police, des grandes propriétés, des symboles de la présence française. On appellera cette nuit la Toussaint Rouge. Simultanément, sur la radio du Caire, la Voix des Arabes, une radio créée par Nasser, on peut entendre, au peuple algérien, aux militants de la cause nationale, une équipe de jeunes responsables et militants conscients, ralliant autour d'elle la majorité des éléments encore sains et décidés, a jugé le moment venu de sortir le mouvement national de l'impasse où l'ont acculé les luttes de personnes et d'influence. Algériens, Ton devoir est de t'y associer pour sauver notre pays et lui rendre sa liberté. Ces attentats, il faut le comprendre, n'ont pas été faits par méchanceté. Ils ont été faits par nécessité. Parce que rien d'autre n'était possible pour faire cesser cette inhumanité et cette injustice. Parce qu'il fallait bien faire comprendre aux colons que maintenant ça suffit, c'est marre. Partez. Ils n'ont pas fait des masses de victimes. 7 morts. Quand on compare aux 45 000 morts de Sétif. Mais la presse européenne va s'émouvoir de la mort de l'instituteur Guy Monroux. La mort d'un blanc, c'est bien plus triste que celle de 45 000 arabes. C'est un refrain bien connu. À cet instant en France, c'est la 4e République. Le président de la République est René Coty. Et le président du Conseil, c'est-à-dire le chef du gouvernement, l'équivalent de notre Premier ministre, est Pierre Mendès-France. Le 12 novembre, Mendès-France affirme « Les départements d'Alger constituent une partie de la République française. Ils sont français depuis longtemps et d'une manière irrévocable. » Pas un grand visionnaire sur ce point. Mais c'est moins pire que son ministre de l'Intérieur, le paillasson Mitterrand, qui glapit « L'Algérie, c'est la France, et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autres autorités que la sienne. » Et ta mère, Mitterrand, tu reconnais sur toi d'autres autorités que la sienne ? Et pourtant, c'est Mendès-France qui a mis fin à la guerre en Indochine, signé des accords reconnaissant l'indépendance du Laos et du Cambodge, préparé l'indépendance de la Tunisie et amorcé celle du Maroc. Et oui, mais malgré tout, Mendès-France continuait à considérer l'Algérie comme un département français. Mitterrand fait alors arrêter des milliers de nationalistes qui n'ont juste aucun rapport avec le FLN. Dès le 5 novembre, il dissout même le MTLD, le parti du vieux Messaliage. Wesh, Mitterrand confond le FLN et le MTLD ? Et le PCF ne comprend rien non plus. Son bureau politique déclare le 9 novembre qu'il ne saurait approuver le recours à des actes individuels susceptibles de faire le jeu des colonialistes, si même ils n'étaient pas fomentés par eux. Le PCF, conspirationniste before it was cool.
Vous avez une rage incroyable,
oui.
Puis Mitterrand part organiser la répression dans les Aurès. Il prétend agir pour le bien des Algériens, bien sûr. Il semble bien qu'à travers toute l'Algérie, on ait voulu lever le peuple contre celui qu'on appelait l'étranger ou l'occupant, le français.
La population n'a pas compris ce langage, car elle est française. Elle n'a donc pas suivi, elle n'a pas obéi au mot d'ordre. De ci, de là, elle a hésité, mais dans peu d'endroits. Sans le concours des populations, rien n'est tout à fait possible, sans aucun doute. Mais les premières victimes, si elles n'agissent pas dans ce sens, ce sera elles. Et comme notre devoir est de les en prévenir, nous ne manquons pas une occasion de le faire.
Pour prévenir les populations afin qu'elles ne deviennent pas des victimes, le paillasson et agent de la mort Mitterrand utilise des canons. Les massacrer avant qu'elles ne deviennent des victimes, c'est mieux que les prévenir. C'est les en sauver pour toujours. De son côté, Mendès-France essaye de calmer le jeu par des réformes. Un programme facilitant l'accès des musulmans à des postes de responsabilité dans la fonction publique et une réduction de l'écart entre leurs salaires et ceux des Européens. Mais ce programme sera coupé court. Le 5 février 1955, son gouvernement est renversé. Une chute orchestrée depuis Constantine par René Meyer, le représentant de la ligne dure des Pieds Noirs, qui ne cherche pas un accommodement avec les Arabes, mais bien au contraire, plus d'inégalités, plus de répression, plus de racisme. Mendès-France est remplacé par Edgar Faure. Et encore, pas pour longtemps. La 4e République vient d'entrer dans une zone de turbulence sévère qui ne cessera plus. De Gaulle attend en embuscade. La guerre a commencé. Le réseau du FLN à Alger est démantelé en moins de 2 semaines par les autorités françaises. Il faut dire que la disproportion des forces en présence a de quoi donner le vertige. Les fils de la Toussaint ne sont que 500 à 1000 face à 10 000 soldats français. Mais le FLN recrute, en particulier des anciens de l'armée française, d'origine algérienne, qui ont participé à la guerre contre l'occupant nazi, qui ont été dégoûtés par ce qui s'en est suivi, qui depuis ont déserté. Et puis les Algériens ont un avantage, la taille de leur pays. L'Algérie est le 10e plus grand pays du monde. Il fait 4 fois la France. Et sa géographie est complexe. S'aventurer dans les massifs montagneux de l'Aurès et de la Kabylie, c'est pas simple. Alors, tout en continuant les attentats prenant les autorités européennes pour cible, les soldats de l'ALN prennent le maquis. Et les femmes vont également s'engager de façon très concrète. On les voit dans « Algérie en flammes », le film de René Vautier, avec ses images en couleur des maquis de 1956. La place des femmes dans la guerre d'indépendance, c'est Frantz Fanon qui en parlera particulièrement bien dans l'enceinte de la révolution algérienne. Je cite Frantz Fanon. La guerre révolutionnaire, telle que la mène le peuple algérien, est une guerre totale où la femme ne fait pas que tricoter ou pleurer le soldat. La femme algérienne est au cœur du combat. Arrêtée, torturée, violée, abattue, elle atteste de la violence de l'occupant et de son inhumanité. Infirmière, agent de liaison, combattante, elle témoigne de la profondeur et de la densité de la lutte. Ce n'est pas la seule chose qu'on voit dans Algérie en flammes. Vautier filme également ces villages paisibles bombardés par les avions de l'armée française. Et tous ces cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants innocents, tués pour rien. Tous ces morts sur lesquels on vous demande, s'il vous plaît, de ne pas pleurer. Grâce à nos bombes, ils n'ont pas été les victimes du FLN. Être tué par un blanc, c'est moins douloureux. Ça fait moins de peine. À la différence des victimes des attentats du Nord Constantinois en août 1955. Attentat, c'est plutôt un soulèvement, mais encadré par l'armée de libération nationale. Plusieurs milliers de paysans et d'ouvriers agricoles algériens tentent des embuscades, barrent des routes, incendient des fermes, enfin attaquent les passants à coups de haches, de serpes, de pioches et de couteaux. Des grenades sont jetées dans les cafés, on s'en prend aux postes de police et de gendarmerie. Total, 123 morts. La réponse des autorités françaises, elle sera disproportionnée. On n'est pas surpris, mais disproportionnée n'est plus un terme pertinent. Il faudrait inventer un autre mot. L'aviation militaire bombarde les environs, pendant qu'on laisse des civils armés se faire eux-mêmes vengeance sur les paysans. 1273 morts selon l'armée française, qui aime bien la proportion 10 pour 1. 12 000 selon le FLN, qui a fourni les noms et les adresses des victimes. Ce dernier chiffre n'a pas pu être démenti. 12 000 Arabes pour 123 Européens. C'est plus 1 pour 10, c'est 1 pour 100. Quel est le cours du blanc ? Un blanc, désormais, ça vaut 100 Arabes. Mais dès le mois de septembre, la question de l'Algérie est portée à l'ordre du jour de l'Assemblée générale à l'ONU. Et c'est une première victoire symbolique pour le FLN. La France est sommée de s'expliquer sur ces massacres. Antoine Pinet, le ministre des Affaires étrangères, déclare « La France ne peut tolérer ni l'injure ni la calomnie contre son œuvre civilisatrice. Tu vas continuer à nous la chanter longtemps, ta ritournelle de la France civilisatrice ?» avec tes mains pleines de sang. En 1957, Albert Mémy publie son chef-d'œuvre « Portrait du colonisateur, portrait du colonisé ». Dès la première page de son livre, il note « Personne ne croit plus à la mission culturelle et morale, même originelle, du colonisateur ». Et il a bien raison. Dans son livre, Albert Mémy parle du véritable sens de la colonisation, l'acquisition par usurpation, profit et privilège. Un profit économique, bien sûr, mais également un sentiment de supériorité qui opère comme privilège symbolique, bien que le colon reste toujours inférieur au métropolitain. Je cite Mémy. Telle l'histoire de la pyramide des tyrannos. Chacun, socialement opprimé par un plus puissant que lui, trouve toujours un moins puissant pour se reposer sur lui et se faire tyran à son tour. Hélas, les hommes politiques ne lisent pas de livres, ou si peu. Le 9 février 1956, Guy Mollet, nouveau président du Conseil, membre de la SFIO, un socialiste donc, nomme Robert Lacoste, membre de la SFIO, en Algérie, avec le titre de ministre résident, chargé de diriger le territoire. Et le 12 mars, Mollet demande aux députés d'accorder à Lacoste des pouvoirs spéciaux, pour prendre toute mesure exceptionnelle en vue du rétablissement de l'ordre, de la protection des personnes et des biens, et de la sauvegarde du territoire, pouvoir que les députés lui donnent, y compris les communistes. Lacoste obtient une carte blanche et celle-ci ne va pas tarder à recevoir ses premières giclées de sang. Le ministre résident va aussi. Ce qui, quand on y pense rapidement, est incroyable, quand on y pense longuement, banal. Hitlériser ses adversaires. Écoutez Lacoste. Ce qui se passe en Algérie n'est qu'un aspect d'un conflit mondial gigantesque où certains pays musulmans, avant de s'effondrer dans le désordre, cherche, suivant des méthodes hitlériennes, à instaurer une dictature envahissante sur une partie du continent africain. Nous livrons dans ce pays un combat qui est celui de l'Occident, celui d'une civilisation contre l'anarchie, de la démocratie contre la dictature. Et Guy Mollet, ce faux mou terrifiant, cette espèce de François Hollande avant l'heure, pose à ses ministres la question de la peine de mort pour les nationalistes algériens arrêtés. Mendès France et Gaston Defferre votent contre. Mitterrand vote pour. Mitterrand est garde des Sceaux. 45 révolutionnaires algériens seront guillotinés sous son règne. Il va refuser 80% des demandes de grâce. 45 morts sur la conscience. Il n'était pas obligé. C'est un choix. Et Mollé envoie alors un maximum d'appelés du contingent en Algérie. 500 000 soldats français, 500 000 d'hommes. Il porte également le service militaire à 28 mois. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? 19 appelés de la région parisienne sont tués sur la route de Palestro. 19 blancs. Ça va pleurer comme il faut dans les chaumières françaises. Et ça va disproportionner à souhait chez les bidasses français. Des centaines de fusillades publiques, peut-être des milliers. Alors la géopolitique est toujours compliquée. En sous-main, malgré tout, des négociations sont alors en cours entre la SFIO et le FLN. Des négociations que l'armée décide de torpiller. Elle le fait en détournant, entre le 21 et le 22 octobre, l'avion qui transportait les chefs du FLN en direction de Tunis, en les faisant débarquer à Alger et en arrêtant sur le champ tous les passagers. Parmi eux, Ahmed Ben Bella, le futur président algérien. A priori, cette initiative n'est venue ni du gouvernement, ni même de Lacoste, mais du commandement de l'armée et de l'aviation. Ça semble difficile à croire. Mais Lacoste aurait été en congé en Dordogne quand ses généraux auraient décidé de forcer l'avion à atterrir sur le sol algérien. Peut-être, peut-être pas. Mollé, sur le moment, pris de court, Mollé aurait poussé une gueulante. Peut-être. Mais plutôt que de désavouer l'action de ses militaires et de libérer les prisonniers, de peur de perdre la confiance de l'armée, il aurait préféré faire « crari, c'est ce que je voulais ». Je ne pouvais pas libérer des condamnés de droit commun, mon gouvernement aurait été renversé le soir même. Et Lacoste, pareil, caca-culotte. Alger aurait explosé, à ce moment, la ville était comme une chaudière. Mouais. Assumé par Mollé, cette immense connerie sera très sévèrement jugé à l'international. Et de 1956 à 1962, ce sera le monde entier qui, pays après pays, va se dresser contre la France et sa guerre contre les indépendantistes algériens. Tout d'abord le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, puis très vite la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la Pologne, l'Albanie, la Hongrie, l'Inde, la Chine, l'Indonésie, le Vietnam, et même finalement l'URSS, malgré l'influence délétère du Parti communiste français. Et même les États-Unis, qui par la bouche de Kennedy, se montreront favorables à l'indépendance de l'Algérie. Pendant ce temps, une partie du FLN résidant à Alger s'est retranchée clandestinement dans la Casbah, où elle a créé la zone autonome. Et c'est de celle-ci que, en réponse à l'attentat de la rue de Thèbes, va partir la fameuse vague d'attentats. Les bombes déposées par des jeunes femmes. Oui, retour à notre début d'épisode, la séquence d'ouverture sur Djamila Bouhered et Yacef Saadi. Yacef Saadi n'a pas beaucoup de soldats à ses ordres, mais il compense par l'inventivité et l'imprévisibilité. Celle qui en parlera très bien, c'est la responsable de l'attentat du Milk Bar, Zohra Drif, qui deviendra plus tard vice-présidente du Parlement algérien. Nous étions 7 chats et nous devions donner l'impression que nous existions face à cette vague d'attentats. Lacoste prétend alors ne pas pouvoir se contenter de la police pour protéger la population. Le gouvernement donne alors les pleins pouvoirs à l'armée avec la mission de démanteler la zone autonome d'Alger. Une armée qui a connu plusieurs défaites humiliantes, dont évidemment celle de 1940 et celle de Dien Bien Phu, et qui s'est inventée des théories sur la guerre révolutionnaire et des stratégies contre-subversives par lesquelles elle s'autorise d'agir en dehors des cadres conventionnels de la guerre. Le général Massu, le colonel Bijard et 5000 parachutistes arrivent en ville le 7 janvier 1957, appuyés par 10 escadrons de gendarmerie, l'aviation et la marine pour lutter contre le réseau-bombe de Yacef Saadi. Ouais. Enfin, ça, c'est le discours officiel. La police d'Alger pouvait probablement se débrouiller seule contre la zone autonome d'Alger et ses 7 chars. Mais peut-être pas face à la grève générale. une grève générale à laquelle le FLN a appelé à partir du 28 janvier, jour où l'ONU doit débattre de la question algérienne. L'idée est de démontrer le soutien massif du peuple algérien à l'indépendance du pays. Que la France cesse de faire croire qu'il ne s'agit que d'une minorité d'énervés, de ci, des là, mais dans peu d'endroits. Et qu'une fois ceci maté, le pays sera de nouveau en paix. Pour certains historiens, comme Fabrice Risputi, ce ne sont pas les attentats de la zone autonome. C'est la menace de grève générale qui a entraîné le gouvernement d'Alger à déléguer ses pouvoirs à l'armée. Et ça semble pas délirant du tout comme hypothèse, même si c'est encore moins au crédit de la France. Je cite Risputi. Ce qui a précipité la décision lourde de conséquences de militariser la répression dans une agglomération d'au moins 800 000 habitants, et surtout l'annonce affolante, fin décembre 1956, d'une grève générale anticoloniale de 8 jours, dont la réussite probable est un cauchemar pour le gouvernement français. Elle ruinerait en effet aux yeux du monde la propagande française sur la nature du FLN qu'elle présente comme une bande terroriste manipulée par l'étranger et sans base sociale. Et c'est bien parti. Le 28 au matin, les rideaux des magasins des boutiques sont fermés. Les ouvriers des services publics ne se rendent pas à leur travail. Les écoliers restent à la maison. Affolés, le pouvoir envoie des jeeps munis de haut-parleurs qui parcourent les rues et ordonnent à la population d'aller au travail. Des câbles accrochés à des voitures blindées arrachent les rideaux de fer des magasins et les militaires pillent sans vergogne les épiceries. Quand les propriétaires descendent, ils reçoivent l'ordre de laisser ouverte leur boutique sous peine d'incarcération. Puis des camions vont chercher les ouvriers directement chez eux et les emmènent de force dans leur lieu de travail. Résultat, au premier jour de grève, 71% des Algériens étaient restés chez eux. 48 heures plus tard, ils sont tous de retour au travail. La grève a été brisée par la violence. Mais c'est à double tranchant. La violence de la répression a également soudé le peuple algérien derrière le FLN. Elle a soudé le peuple algérien contre l'occupant français. Parce que l'armée va faire un usage non pas massif, l'armée va faire un usage systématique de la torture. L'armée française va utiliser la gégène, c'est-à-dire l'électricité. Elle va utiliser le supplice de la baignoire. Elle va utiliser les coups. L'armée française n'appellera pas ce qu'elle fait torture, bien sûr. La torture est illégale. Elle parlera d'interrogatoires poussés. Les interrogatoires sont en général tellement poussés qu'ils sont sans retour. Ainsi, Larbi Ben Midi, arrêté le 28 février 1957 et suicidé le 5 mars. Un suicide ? Tu parles. Il faudra attendre 50 ans pour que, fort de l'amnistie et de la prescription, le général Ossarès avoue l'avoir pendu et même s'en flatte. L'autre technique pour camoufler un mort, c'est celle de l'évasion supposée. Ainsi, pour Maurice Audin, un mathématicien assistant à la faculté des sciences d'Alger et jeune papa de 3 enfants, enlevé par les paras, torturé et disparu. Il a fallu attendre 2018 pour que Macron reconnaisse officiellement les responsabilités de l'État français et de l'armée française dans son assassinat.
La France doit-elle rester en Algérie ? Si vous répondez encore oui, vous devez en accepter toutes les conséquences nécessaires.
À Alger, on torture dans 2 lieux en particulier, la villa Sésigny sur les hauteurs d'Alger et un bâtiment à El Biar. Et on se débarrasse des cadavres en les jetant à la mer par hélicoptère, les 2 pieds insérés dans du béton coulé. Ces cadavres balancés à la mer et repêchés plus tard dans le port porteront un nom. On les appellera les crevettes bijards. Dans les villages, on torture et on tue directement chez l'habitant. On torture devant les enfants. Ces enfants qui ont vu leurs parents souffrir et mourir devant eux. On les voit et on les entend témoigner dans « J'ai 8 ans » de René Vautier en 1961. L'Algérie entière, coulée par la blessure, écrira Yamina Meshakra dans la grotte éclatée. Des jeunes filles nues sont noyées dans les baignoires. Des hommes sont étouffés. Des flammes de chalumeaux ouvrent des poitrines et des bras. On entaille des corps entiers. Des mains servent d'enclume aux manches des haches. L'Algérie entière criait sous la torture. Yamina Meshakra, une enfant de la Kaïna, comme l'appellera Kateb Yassine,
Coucou Aurélie, coucou Hélène, coucou Alexis et Tim, merci pour les livres. Yamina Meshakra était enfant pendant la guerre d'Algérie. Elle a vu son père se faire torturer par l'armée française devant ses yeux. Et elle a assisté à une scène, une violence telle qu'elle en sera toute sa vie marquée. Un camion de l'armée française s'arrête dans son village, des soldats de l'armée française en descendent et déversent leur cargaison, des corps déchiquetés, des intestins, des poumons, des têtes fracassées, des jambes coupées, tous ces morceaux de corps jetés devant les enfants du village pour les effrayer. Qui est garde des Sceaux à ce moment-là ? Mitterrand. L'abject paillasson et agent de la mort, Mitterrand. Dans quelle mesure Guy Mollet ou lui était au courant de ces pratiques ? On ne sait pas, mais tout de même, pouvait-il ignorer ? Vidal-Naquet ne le pensait pas. Vidal-Naquet écrivait « Mais oui, tous les gouvernements ont toléré la torture. Qu'il y ait quelque injustice à s'en prendre exclusivement à ces hommes, les militaires, c'est ce que nous avons dit bien souvent. Ce sont les Mollet, les Lacoste et les Coty qui font les massues. » Et Gisèle Halimi était allée à la rencontre de Mendès France et de Mitterrand. Elle leur a montré preuve sur preuve. Mendès France disait simplement « Il faut le faire savoir. » C'était un être humain. Mais l'agent de la mort, dira Gisèle Halimi, avait une espèce de volonté de ne pas avaliser ce qui était la vérité.
Mitterrand avait une espèce de volonté de ne pas avaliser ce qui était la vérité, ne pas avaliser la torture est un système en Algérie d'investigation.
À noter, parce que cette question est bizarrement, régulièrement reposée. Oui, Jean-Marie Le Pen a bien torturé en Algérie, torturé et tué. Tout cela a été documenté par Pierre Vidal-Naquet dès l'été 1962. Dès 1962, Vidal-Naquet publie le rapport du commissaire principal d'Alger, René Gilles, un rapport de 1957 dans lequel un Algérien, Abdennour Yayaoui, affirme avoir été torturé à l'électricité, à l'eau et au nerf de bœuf sur ordre et en présence du lieutenant Le Pen. Un deuxième, Ahmed Bouali Benhammer, veilleur de nuit à l'hôtel Albert Ier, a subi des violences comparables pour avoir simplement refusé de lui servir à boire. Le lieutenant Le Pen, qui était déjà député sur la liste de Poujade, s'est engagé en Algérie comme il s'était engagé précédemment en Indochine. Par patriotisme, dira-t-il, par colonialisme plutôt. Il y restait 3 mois, du 28 décembre 1956 au 31 mars 1957. Les premiers dépôts de plainte le présentant comme tortionnaire datent du mois de mars. Et longtemps, Le Pen s'en est vanté. En mai 1957, lors d'un débat public, il déclare « Nous avons reçu une mission de police et nous l'avons accomplie selon un impératif d'efficacité qui exige des moyens illégaux. La torture est inévitable et donc, dans les conditions anormales où l'on nous demande d'agir, elle est juste. » Ou, 5 ans plus tard, dans une interview accordée à Combat, « Je n'ai rien à cacher. J'ai torturé parce qu'il fallait le faire. Quand on amène quelqu'un qui vient de poser 20 bombes qui peuvent éclater d'un moment à l'autre et qu'il ne veut pas parler, il faut employer des moyens exceptionnels pour l'y contraindre. »
Sur le moment, ça fait mal, mais après, c'est fini. Voilà, bah oui. Ça fait moins mal qu'une bombe qui vous arrache une jambe. Mais enfin... Voilà. Mais les terroristes sont très pointilleux sur leurs droits, hein, et sur leur intégrité physique, eux, alors là, faut pas rigoler, hein.
Parenthèse. Cette histoire de bombe à retardement est là pour impressionner. Mais elle est imaginaire. Il n'existe aucune bombe dont l'explosion programmée aurait été empêchée grâce à une information obtenue sur la torture. C'est un élément de langage, un truc que les tortionnaires doivent dire en interview. Le Pen fait le coq comme ça pendant 20 ans.
C'est scandaleux.
Et ça change à partir du milieu des années 80.
Où a-t-il témoigné de cela ?
Décennie où il n'assume plus du tout et fait des procès en diffamation à tous ceux qui lui en reparlent, tout en pratiquant une sorte de déni compliqué. À la fois, refus d'admettre avoir pratiqué la torture et éloge des combattants qui combattirent le FLN avec des violences de guerre. Il s'en défend à nouveau devant la caméra de José Bourgarel en 2007 et sa défense est pour le moins maladroite. Il fait de l'ironie Il imite les accents des victimes.
Il était à Bellecourt, il était à la Casbah, il était partout. C'est le diable. C'est absolument, oui.
René Vautier, encore lui, a filmé le témoignage de Hadj Boukalfa, un agent municipal sans histoire que Le Pen a torturé à l'électricité et qui en est demeuré quasi aveugle. Il a filmé le témoignage d'Ali Rouchaï, qui avait déjà dénoncé Le Pen en 1957 dans Résistance algérienne. Lui, Le Pen l'a torturé à l'électricité, au bâton et au poing. Vautier a filmé le témoignage de Mohamed Moulay, qui a vu son père Ahmed torturé jusqu'à la mort par Le Pen. Après quoi, il l'a vu tirer sur son cadavre avec une mitraillette. Il a filmé le témoignage de Mohamed Louli, que Le Pen a torturé à l'eau et à la gégène, et qui a vu Le Pen tuer devant lui quatre personnes qu'il avait précédemment torturées. Il y a suffisamment de témoignages pour qu'on cesse d'en douter. Sauf évidemment à considérer que la parole d'un Algérien n'a aucune valeur, que c'est tous des menteurs. Eh bien, le plus triste dans tout ça, le plus triste, c'est que la petite musique négationniste de Le Pen a fait son chemin. Et elle a abouti, en 2012, sous la plume de Pierre Péan et de Philippe Cohen, une biographie, Le Pen, une histoire française, dans laquelle les deux journalistes prétendent que celui-ci n'a sans doute pas torturé en Algérie. Pourquoi ? Parce que selon eux, les témoignages ne sont pas fiables. Ah ouais, les victimes de Le Pen, des hommes partiellement invalides à la suite de leur torture, reçoivent désormais une pension de l'État. Donc, pour les deux journalistes, ils reçoivent, accrochez-vous, une pension du FLN, ce qui invalide leur témoignage. Oula ! Vous savez où vous allez avec ça, les mecs ? L'argument laisse pantois, écrit à ce sujet Fabrice Pouty dans son livre « Le Pen et la torture ». Soutiendrait-on que ceux qui ont été reconnus anciens résistants déportés français par les autorités à la libération, par exemple, seraient de ce fait suspects de mentir dans leur témoignage sur les exactions nazies ? Nous touchons ici à l'un des symptômes du déni national des crimes de l'armée française en Algérie, la persistance du refus de prendre en compte la parole algérienne. Ouais, la pratique généralisée, systématisée de la torture par l'armée française en Algérie est si dure à accepter. Le 19 mars 1957, l'Express publie une lettre ouverte du général Jacques de Bollardière, qui avait pris le commandement d'un secteur proche de Blida et qui dénonce les atrocités commises par l'armée en Algérie. Bollardière parle aussi de la nostalgie du nazisme chez les officiers qu'il a rencontrés. Un jeune officier qui lui dit très naturellement « Si j'avais été en Allemagne à ce moment-là, j'aurais été nazi. » Que fait le gouvernement ? Est-ce qu'il lance une enquête interne sur les actions de son armée ? Nope ! Il envoie Bollardière en prison pendant 6 mois.
C'est vraiment un gros tas de merde.
Peu importe. Continue à faire joujou, agent de la mort. Dans quelques mois, un nouveau scandale va éclater dans la métropole, la torture du journaliste Henri Allègue. Henri Allègue, le directeur du journal Alger Républicain. Henri Allègue va être un des premiers à décrire avec précision les tortures qu'on lui a infligées dans son livre « La question ». La question, un livre publié par les éditions de Minuit, l'honneur de l'édition française durant la guerre d'Algérie. La question sort le 12 février 1958, 4 semaines plus tard, alors qu'il a déjà atteint les 72 000 exemplaires vendus. La police saisit le livre et on menace l'éditeur, Jérôme Lindon, d'inculpation à participation à une entreprise de démoralisation de l'armée. Les pauvres petits choux, qu'est-ce qu'il leur a écrit qui leur sape le moral, le méchant monsieur ? Il a écrit ce qu'il a subi. Pour avoir dénoncé la torture dans son journal, Henri Allègue est arrêté le 12 juin 1957 par des paras qui vont le séquestrer pendant 1 mois. Pour le punir d'avoir dénoncé la torture, les paras vont le torturer. Tout y passe. La gégène, la baignoire, et les militaires français ne cachent pas leur identification aux nazis, leurs idoles en fait, leurs modèles, leurs dieux. Ici, c'est la Gestapo, lui dit le colonel Hérulin. Et puis, ce qu'on a fait ici, on le fera en France. Ta putain de république, on la foutra en l'air aussi. Vous pigez ? Et le capitaine Falk se présente lui-même comme un capitaine SS. Qui est surpris ? Albert Memmi l'avait écrit noir sur blanc dans Portrait d'un colonialiste. Toute nation coloniale porte en son sein les germes de la tentation fasciste. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que le fascisme sinon un régime d'oppression au profit de quelques-uns ? Or, toute la machine administrative et politique de la colonie n'a pas d'autre fin. Guy Mollet, président du Conseil pendant les tortures, fait du damage control, mais il contrôle plus rien.
La France, c'est dans le monde le pays des droits de l'homme.
Mollet met en doute les prétendus témoignages écrits et les lettres reçues par la presse. Mais oui, mais tu as raison, traite les gens de menteurs. Déjà en 1954, le paillasson et agent de la mort, quand il était ministre de l'Intérieur, avait traité de menteuse l'avocate maître René Plasson-Stib, qui avait retrouvé ses clients algériens torturés par la police dans un local près du palais de justice d'Alger. Mais oui, Mitterrand, mais oui, tout le monde, c'est des menteurs. Et intimider autant que vous pouvez la presse et les éditeurs par vos saisies à répétition. C'est trop tard. Le choc a déjà eu lieu. Et puis, il y a le viol. Oui, on va en parler aussi. L'armée française va pratiquer massivement le viol dans le cadre de la guerre d'Algérie. Massivement. Et un grand nombre des combattantes algériennes vont en être victimes. Par exemple, Djamila Poupacha, 22 ans, violée par les soldats français alors qu'elle était encore vierge et qui va être défendue par Gisèle Halimi. Son drame sera connu du grand public. Il y aura un livre publié par Gisèle Halimi avec Simone de Beauvoir. Picasso fera même son portrait. Mais d'après un ancien appelé interrogé par Le Monde, 9 femmes détenues par l'armée française sur 10 étaient violées. Un infirmier, Benoît, raconte. Dans mon commando, les viols étaient tout à fait courants. L'officier nous disait « Violez, mais faites cela discrètement. » Cela faisait partie de nos avantages et était considéré en quelque sorte comme un dû. Selon Henri Pouillot, les viols étaient une torture comme une autre. C'était juste un complément qu'offraient les femmes. Dernier petit complément, on les tue. On les jette comme des ordures. La femme que le soldat français viole est un simple déchet. L'ancien sergent Jean Vuillet raconte « Trois adjudants les interrogeaient régulièrement dans leur chambre. En mars 1961, j'en ai vu 4, agonisés dans une cave pendant 8 jours, torturés quotidiennement à l'eau salée et à coups de pioche dans les seins. Les cadavres nus de 3 d'entre elles ont ensuite été balancés sur un talus au bord de la route de Kolo. » Le 24 septembre 1957, Yacef Saadi est arrêté. Cette arrestation et la mort d'Ali Lapointe, qui tombe en héros, refusant de se rendre, marque la fin de ce qu'on a appelé la bataille d'Alger. Encore une victoire pour l'armée française. Mais c'est une victoire au goût amer. Le 12 septembre 1957, Paul Tedgen, secrétaire général de la police d'Alger, ancien résistant déporté à Dachau, après avoir comptabilisé plus de 3000 disparitions d'Algériens appréhendés depuis janvier, c'est-à-dire en clair, 3000 Algériens tués après avoir été torturés, démissionne en protestation contre les pratiques du général Massu et des parachutistes. Je cite Paul Tedgen. « En visitant les centres d'hébergement, j'ai reconnu sur certains assignés les traces profondes des sévices ou des tortures qu'il y a 14 ans, je subissais personnellement dans les caves de la Gestapo. » En France métropolitaine, c'est une crise de régime. On n'arrive pas à constituer de nouveaux gouvernements. Et en Algérie, les militaires ont quasiment pris le pouvoir. Massu s'assoit derrière le bureau de Lacoste et prétend gouverner en attendant qu'on lui donne un chef digne de ce nom. La 4e République s'effondre. Acculé, le monde politique français sort son joker, un militaire, pour remettre de l'ordre. Et dès le début de l'année 1958, une petite musique prédit le retour de De Gaulle sur la scène politique. Parmi ceux qui le veulent, il y a, ce sera tout le comique de cette affaire, les partisans de l'Algérie française et l'armée sur place, les soldats qui ont pris le pouvoir. Massu et compagnie. Massu lit même un communiqué où, avec d'autres, il supplie le général De Gaulle de bien vouloir rompre le silence en s'adressant au pays en vue de la formation du gouvernement de salut public qui seul peut sauver l'Algérie de l'abandon. Sollicité pendant des semaines, faisant son difficile, De Gaulle déclare le 15 mai 1958 que devant les épreuves qui montent de nouveau, il se tient prêt à assumer les pouvoirs de la République. L'armée et les pieds noirs se réjouissent. Spoiler, ils vont être déçus. De Gaulle ne va pas venir sans condition. Il veut les pleins pouvoirs et la révision de la Constitution. Le 1er juin, l'Assemblée nationale lui accorde sa confiance. Et du 4 au 7 juin, De Gaulle va jouer l'ambiguïté. À Alger, aux côtés de Massu, il dit
« Je vous ai compris !»
Ce que Gray Anderson commentera ainsi. Sa brève péroraison ne précisait pas ce qu'il avait compris. En effet, il a compris quoi ? On ne sait pas. Le 6 juin, il clame « Vive l'Algérie française !» Mais à quoi il joue ? Il change de constitution, fonde la 5e République. Celle-ci, par l'article 16, donne au président de la République la prérogative de gouverner seul pendant un état d'urgence, ainsi que la possibilité de dissoudre le Parlement et d'appeler un référendum sur toute loi affectant l'autorité de l'État. En France métropolitaine, 80% votent en faveur du projet gaulliste. En Algérie, le « oui » l'emporte à 97%. En décembre 1958, De Gaulle est élu président de la République française. Et cette 5e République, dans laquelle nous vivons toujours, doit-on souligner qu'elle a été taillée sur mesure pour un président qui se voudrait tout puissant face à une population indocile. Il s'agit de Maté. La guerre d'Algérie n'est tellement pas finie, vieux Duhamel, que nous vivons toujours dans le régime présidentiel capricieux qu'elle a suscité. On va beaucoup délirer sur De Gaulle, faire de De Gaulle un visionnaire, le type qui a tout compris. Pas tous. Pas Sadri Carry dans la contre-révolutionnaire coloniale en France, par exemple. Je cite Sadri Carry. Les historiens se disputent pour savoir si à ce moment-là, De Gaulle était encore partisan de l'Algérie française ou s'il était déjà convaincu que la France n'avait d'autre choix que d'abandonner ses départements algériens. Ce qui paraît certain, c'est que s'il s'est résigné à la perte des colonies, c'est bien qu'il en a été contraint et forcé. Il a tout fait pour les conserver tant qu'il pensait pouvoir encore le faire sans contribuer à la dislocation interne de l'État français. C'est juste. Et cela se vérifie par les commencements de sa présidence. Parce que dans un premier temps, avant d'accepter l'autodétermination du peuple algérien, De Gaulle a surtout renforcé la présence militaire dans une recherche d'efficacité. Il a d'abord cherché la victoire, et par des moyens qui ne sont pas vraiment à son honneur. Pour le FLN, l'approvisionnement en armes et en munitions était essentiel. Celles-ci lui venaient du Maroc et de la Tunisie, par les frontières desquelles le FLN faisait passer les armes qui circulaient ensuite à cheval à travers les montagnes. L'armée française va faire construire sur les frontières marocaines et tunisiennes des barrages électrifiés, des barrages à 7000 volts, sur des centaines de kilomètres chacun. Elle va surtout installer des mines pour empêcher le passage des armes dans les Aurès et dans l'est de l'Algérie. Le total cumulé sera de 6 200 000 mines. Le FLN perdra 3 600 hommes sur ces mines. Et les troupes françaises également 250. Par erreur, par connerie. Après l'indépendance, et sur un an seulement, les mines vont encore faire 500 amputés, dont beaucoup d'enfants. Ces enfants, on les voit dans « Peuple en marche » de René Vautier en 1963. Oui, Vautier, encore lui! Le cinéaste le plus censuré de France, emprisonné, expulsé, et qui, au détour d'une séquence de « Peuple en marche », nous montre le visage de quelques-uns de ses enfants amputés par les mines en 1963. Leur vie gâchée à tout jamais par les pratiques dégoûtantes des occupants. Il faudra attendre 2007 pour que la France daigne remettre à l'Algérie les plans indiquant le positionnement des mines. Il en restait encore 3 millions à retirer. Entre-temps, elles avaient encore fait 4000 morts et 13000 blessés. La civilisation, on vous dit. Mais surtout, il va y avoir pire, bien pire. Il va y avoir le plan Schall, du nom du général Maurice Schall, nommé par De Gaulle commandant en chef en Algérie le 12 décembre 1958. Schall est appelé à inverser la tendance qui consistait à laisser au FLN l'initiative des nouveaux affrontements. Schall doit prendre l'initiative de la guerre. Il présente alors un plan destiné à priver définitivement le FLN de moyens logistiques et à les isoler des civils qui les nourrissent et les cachent. Pour cela, l'armée française va créer des zones interdites où tout être vivant, homme ou animal, quel que soit son âge ou son genre, sera abattu sans sommation. Pour créer ces zones interdites, Schall va imposer des déplacements forcés de population, principalement des villageois, qui perdent alors leurs terres et leurs moyens de survie et que l'armée installe littéralement dans des camps de regroupement. Puis, une fois vidés de leurs habitants, l'armée détruit les villages pour qu'ils ne puissent pas être utilisés par le FLN. Alors oui, le plan Schall va détruire les dernières possibilités d'action du FLN. Oui, mais à quel prix ? Environ 3 500 000 Algériens vont être déplacés, soit 41% de la population colonisée. Et si on ajoute les centaines de milliers d'Algériens réfugiés au Maroc et en Tunisie après 1956, on dépasse les 50%. Un tiers de la population déplacée, 2 300 000 personnes, va être placée dans des camps qui sont des mouroirs. Cette pratique de l'armée française va entraîner une surmortalité de la population. En seulement un an, 200 000 personnes, en particulier des enfants, meurent de malnutrition à la suite des conditions de vie imposées par l'armée française dans le cadre du plan Schall. « Ils firent de nous un peuple errant et sans terre promise », écrit Yamina Meshakra dans La Grotte éclatée. Ils envisagèrent pour nos enfants le compte des 1000 champs de regroupement, le salaire de l'insoumission. Ils ont écorché de barbelés l'horizon de nos enfants sous-alimentés, rachitiques, dont la vie dépendait de la bonhomie du soldat français. On distinguait les os sous la peau de nos mômes, démunis d'un patrimoine nourricier. Et après l'indépendance, ces personnes qui étaient essentiellement des paysans n'ont pas pu réintégrer leur village détruit et leur terre minée. Ils ont dû massivement partir s'entasser dans les villes de la côte. C'est pour ça que c'est incroyable que les politicards et les écrivaillons français pleurnichent toujours sur leurs racines. Les racines de la France.
Ce sont mes racines.
Quand leur pays, notre pays, a concrètement, techniquement, cyniquement déraciné la moitié des Algériens pour toujours.
Si je suis là, c'est pour une raison simple. Je veux pas que le pays meure.
C'est incroyable et c'est indécent. En avril 1959, France Observateur et Le Monde publient des extraits d'un rapport sur ces camps qu'en métropole ne tardera pas à comparer aux camps de concentration. Son auteur est un inspecteur des finances de 28 ans, Michel Rocard. Il y note la mort de 15 000 enfants algériens par mois pour la seule année 1958. Bravo Rocard. Pour une fois que je dis du bien d'un socialiste, profitez-en. C'est au Premier ministre de De Gaulle, Michel Debré, de devoir nier l'évidence et d'en accuser l'opposition communiste. Je cite Michel Debré. Les centres de regroupement ont été rendus obligatoires par notre volonté nécessaire de libérer de la peur des populations isolées ou écartées. Les dirigeants de la rébellion, nous en avons la preuve, ont demandé que dans le monde entier, les partis communistes lancent une campagne contre les centres de regroupement en raison des conséquences fatales qu'ils avaient pour leurs propres opérations. Les communistes.
Pourriture communiste.
Pas tout à fait la sensibilité politique du jeune Rocard, ni les plus grands amis du FLN. Debré n'a rien trouvé d'autre. Faudra s'en contenter. Michel Debré ne le sait pas. Mais il ne va pas tarder à porter un entonnoir sur la tête, sur les dessins de Volinsky, puis sur ceux de tous les dessinateurs d'Harakiri. En 1959, l'armée française présente sa victoire comme imminente. Mais le colonel Bijard avoue à De Gaulle: la pacification semble se dérober comme un mirage, le mal est profond, le cancer bien accroché. C'est que la France est toujours victorieuse militairement, grâce à sa supériorité technique et son effectif en surnombre. Mais la guerre est non seulement perdue face au peuple algérien, ça c'était le cas depuis le début, elle est déjà perdue au regard de l'opinion internationale. Internationale et même nationale. En France, la guerre divise de plus en plus l'opinion. Et la participation des appelés du contingent aux opérations est très mal acceptée. En octobre 1959, Schall déclare « Leur propagande est meilleure que la nôtre ». C'est pas leur propagande qui est meilleure, c'est leur raison de se battre, pauvre type. C'est évident. L'issue politique de la guerre ne peut être qu'une victoire de l'Algérie indépendante. Ce n'est pas une guerre entre deux pays, c'est une guerre de décolonisation. La défaite symbolique de la France est au moins aussi importante que sa victoire militaire. La puissance anticoloniale algérienne ne pouvait pas remporter la victoire par sa seule force militaire, en raison du gigantesque différentiel technologique, logistique et économique, expliquera Sadri Khari. Elle ne pouvait gagner que politiquement. c'est-à-dire par les effets politiques de la guerre en France. La principale expression de ces effets politiques a été l'explosion des contradictions entre la direction politique et la direction militaire et entre la métropole et la société française coloniale. Explosion des contradictions. Oui, la guerre d'Algérie va diviser la France. 250 000 ouvriers algériens travaillent alors en France métropolitaine, habitant dans des bidonvilles, trimant pour des nèfles. Le préfet de police Maurice Papon, déjà responsable de rafles de juifs dans la France de Pétain, va leur faire la pire vie possible. Le prétexte, c'est de prévenir d'attentats possibles de la part de ses sympathisants ou potentiels militants. La police procède à des vérifications d'identité qui aboutissent souvent à des arrestations et tout suspect peut être envoyé à un centre d'assignation. Des centres d'assignation, il y en aura quatre. Mourmelon-Vadenay, Saint-Maurice-l'Ardoise, Tolle et le Larzac. Près de 14 000 Algériens vont y être internés et torturés. C'est ça, la vie des travailleurs immigrés en France à cette époque. La guerre d'Algérie divise la France. Elle divise aussi la gauche. On ne parle pas de la SFIO ou du futur PS, les civilisateurs. Mais même la gauche communiste était plus que tiède. Elle était froide. Tout d'abord, seuls quelques communistes indépendants, trotskistes ou chrétiens d'extrême gauche, avaient soutenu le combat du FLN. Mais ce sont eux dont on se souviendra. On se souviendra aussi des porteurs de valises du réseau Janson, du nom de Francis Janson, un philosophe gérant de la revue Les Temps modernes. On va découvrir leur existence entre février et mars 1960 lors d'une série d'arrestations qui va leur donner paradoxalement une publicité sans précédent. Eux, ce sont de sacrés héros. Et les éditions de Minuit, toujours elles, admirables. Les éditions de Minuit publient un recueil de déclarations de prisonniers algériens torturés en 1959 à Paris, rue des Saussées, par la DST. Le livre, La Gangrène. Trois jours après publication, la police saisit le livre. Mais en trois jours, un livre a le temps de faire parler de lui. Et les témoignages sont à glacer le sang. Les Algériens, des étudiants pour la plupart, se font frapper à coups de pied à 5 contre 1, ce que les flics parisiens appellent alors faire du football. L'un d'eux se fait pisser sur le visage. Un se fait torturer alors que dans sa bouche, on lui met un mouchoir dans lequel les flics se sont mouchés. Un autre, on le viole avec une bouteille et on lui frappe le sexe avec une règle de bois. Un flic dit « J'ai connu la torture chez les nazis, maintenant je l'applique. » Un autre, véhément « Ça peut ne pas te plaire, mais c'est comme ça. Tu es d'une race que je déteste, comme les nègres. Vous allez voir maintenant ce que c'est que la France, bande d'esclaves. Aujourd'hui, c'est moi qui commande, c'est le règne des flics qui commence. » Le Premier ministre Michel Debré réagit vivement. Ce livre constitue une affabulation totale, un assemblage de mensonges. Je ne voudrais pas que l'on dise ici que ce livre infâme représente en quoi que ce soit à l'ombre de la vérité. C'est purement une affabulation mensongère. Oh là là, tu t'agites beaucoup. Tu es fébrile. Accroche-toi à ton entonnoir, mec, hein, parce que ça va continuer à tanguer. Un film de cette époque montre bien la façon dont la guerre d'Algérie traverse la vie des métropolitains, en particulier la jeunesse. C'est Chronique d'un été de Jean Rouch et Edgar Morin. Dans cette espèce de vlog avant l'heure, tourné en été 1960, une scène est particulièrement significative. Un repas où les protagonistes, bourrés, jeunes et vieux, s'engueulent sur la façon de s'opposer à la guerre d'Algérie. Dont Régis Debray, très jeune et déjà sentencieux. Une petite femme mince reste silencieuse. Cette femme, c'est Marceline Loridan, une ancienne déportée, juive, future épouse et collaboratrice du réalisateur Joris Ivens. On apprendra plus tard qu'elle faisait partie du réseau Janson. Dans ses souvenirs, elle racontera son interrogatoire rue des Saussées. J'avais l'impression que l'histoire recommençait. J'ai été interrogée pendant 8 heures rue des Saussées, emmenée par là, j'allais dire la Gestapo. C'est à cette époque que Vergès apparaît, l'étrange Jacques Vergès, ancien résistant, ayant rejoint la France libre à 17 ans, devenu depuis l'avocat des poseuses de bombes du FLN. Provocateur né, il va imposer une stratégie qui s'avérera payante, la défense de rupture. Agressivité assumée, interruption, intervention théâtrale et surtout intense battage médiatique. Chaque procès doit être un procès spectacle où la performance compte autant que l'argumentation. En accord avec le FLN, Vergès va former avec Mourad Oussédic un collectif autonome d'avocats dont le but est de transformer le banc des accusés en tribune politique. Pour ce collectif, les choses sont claires. Non, l'Algérie n'est pas la France. Les Algériens sont des résistants. Pas de connivence donc, puisque le défenseur et l'accusateur ne parlent pas depuis le même endroit. Pas de connivence. Rupture. L'un des fondateurs de ce collectif d'avocats, Amokran Ouldaoudia, va être assassiné en mai 1959. Il faudra attendre les années 2000 pour connaître l'identité du tueur, un colonel des services spéciaux qui, fort de l'amnistie et de la prescription, va lui aussi s'en vanter. Le colonel Muel. Il dira l'avoir tué sur ordre de Michel Debray, qui a du sang sur son entonnoir. La défense de Rupture, Vergès la théorisera en 1968 dans son livre « De la stratégie judiciaire ». Les exemples qu'il cite peuvent nous parler. Nous qui avons traversé 18, bientôt 19, épisodes de l'Empire n'a jamais pris fin. La rupture dans la stratégie judiciaire, c'est Saint-Just, mettant en accusation Louis XVI. Mais c'est aussi Gracchus Babeuf, qui parle d'une guerre civile entre les riches et les pauvres, décidée par les riches. Et Eugène Varlin, futur membre de la Commune, lors de son procès en 1868. Dans un procès de rupture, l'accusé, même enchaîné, se présente au nom d'un autre ordre et d'un autre monde. Emprisonné, Babeuf exigeait du directoire qu'il traita avec lui de puissance à puissance. Et Varlin, en 1868, au procès de la Première Internationale, déclarait à ses juges, devant les principes, « Nous sommes deux parties ». Défense de rupture. Dans son livre sur Robespierre, Hervé Levers considère que lorsque celui-ci était avocat à Arras, il pratiquait déjà une sorte de défense de rupture. En certaines affaires, Robespierre pousse ses écrits jusqu'aux plus extrêmes limites autorisées, si ce n'est au-delà, par une défense que l'on pourrait qualifier de rupture. Il dépasse une simple interprétation des faits et du droit pour dénoncer l'incompétence des juges de première instance ou contester la légitimité des normes en vigueur. Intéressant, non ? Ce qui est certain, c'est que Vergès sera toujours un admirateur fervent de Robespierre. En 1989, l'année du bicentenaire, avec Kavanagh, Volinsky, le professeur Schwarzenberg et quelques autres, il fera partie de l'association Pour Robespierre, voulant réparer une des plus grandes injustices de la ville, l'absence de rue Robespierre. Et Vergès n'est pas la seule figure de l'indépendance algérienne pour qui Robespierre est une référence importante. Il y a aussi Kateb Yassine. Kateb Yassine avait bien vu que les hommes contre lesquels Robespierre s'était battu étaient les mêmes que les Algériens ont dû combattre durant la guerre d'Algérie. Et il en parlera en interview. Je cite Kateb Yassine. La bourgeoisie rejette Robespierre parce qu'il était radical. Les bourgeois le détestent. Pour eux, c'est un criminel, un terroriste, un homme de sang. Nous avons eu à subir les mêmes leçons de morale pendant la révolution algérienne, quand les moralistes qui nous massacraient prétendaient nous traiter comme des terroristes assoiffés de sang. Ces mêmes hommes avaient en effet poussé à l'invasion, à la conquête, à la torture, à la guerre, à l'exploitation éhontée des colonies avec le masque de l'humanisme. Ce sont les pires terroristes. Le dernier grand procès de la guerre d'Algérie, ce sera le procès du réseau Janson, celui des porteurs de valises. Il a lieu devant le tribunal permanent des forces armées de Paris du 5 septembre au 1er octobre 1960. L'accusation va commettre une énorme erreur en réunissant à la fois des responsables français du FLN et les membres d'un réseau de soutien. On va se retrouver avec 6 Algériens et 17 Français, professeurs, artistes, étudiants, cinéastes. Alors que le président, interrompant un témoin qui parlait de la guerre d'Algérie, lui disait qu'il n'avait pas le droit de prononcer cette expression, qu'il n'était question que d'opérations de police. À la fin du procès, il n'y a plus d'erreur possible. Le pouvoir exécutif va alors devoir reconnaître qu'il existe bien deux parties, et donc une guerre en Algérie, et non des opérations de maintien de l'ordre. Et que l'Algérie a peut-être, peut-être, des raisons de demander son indépendance. Dans tous les cas, certains Français le pensent, et sont prêts à risquer leur vie pour ça. Cela fait donc médiatiquement des Algériens non plus des terroristes, mais des belligérants, et même des résistants. Et puis ce sera la force de la parole de leur soutien. Le déserteur Gérard Meilleur, par exemple. Ce que nous avons fait, nous en sommes fiers. Nous espérons que d'autres le feront. Ou l'ancien appelé Jean-Claude Popper. L'essentiel, c'est que j'ai aidé des Algériens. J'en suis fier, c'est tout. C'est même l'ancien secrétaire général de la préfecture d'Alger, l'admirable Paul Tedgen, qui déclare « Quand un peuple résiste à l'oppression, tout le respect lui est dû, et non seulement le respect, toute l'aide qu'on peut lui apporter. Dionis Mascolo et Maurice Blanchot écrivent alors une déclaration sur le droit à l'insoumission, le Manifeste des 121, publié le 6 septembre 1960. Déclaration signée par plein de stars. André Breton, François Truffaut, Tristan Tzara, Marguerite Duras, Simone de Beauvoir, Guy Debord, Pierre Boulez, Claude Lanzmann, Alain René, Claude Sauté, Daniel Delorme, Simone Signoret, Roger Blin, Alain Cuny, Jean-Paul Sartre, Robert Benayoun, Michel Léris, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Édouard Glissant, des stars mondiales. En réaction au Manifeste des 121, le maréchal Juin lance un contre-manifeste. Le Manifeste des intellectuels français pour la résistance à l'abandon, qui paraît en octobre 1960 dans Carrefour, pas le supermarché, un hebdomadaire de l'époque, signé par 185 Gus. C'était important qu'il y en ait 64 de plus qu'en face. On les connaît à peine aujourd'hui, les 185 chaussettes de Juin, à part la poignée de hussards à la con, Jacques Laurent, Antoine Blondin, Roger Nimier. Sinon, c'est que des nazes. Henri Bordeaux, Henri Massis, Thierry Molnier, Pierre Gaxotte, Jean Dutour. Des croutons rassis. Eh ben les mecs, c'était pas la peine d'être 62 plus pour avoir 60 fois moins de noms prestigieux qu'en face. Si c'était pour imiter la stratégie de l'armée française, vous auriez dû lancer un manifeste des 1203, voire des 12037. Au moins, on se serait marré. L'Algérie indépendante a déjà gagné symboliquement, émotionnellement, intellectuellement, médiatiquement, historiquement. Sa victoire politique est donc inéluctable. Moins con que les autres, De Gaulle le sait bien. Et le crooner de Colombé va agir aux conséquences. Malgré tous ses soutiens initiaux, il va lâcher du lest. Les partisans de l'Algérie française vont commencer à se méfier de lui quand il commence à multiplier les grâces présidentielles pour des indépendantistes condamnés à mort. Ce n'est pas que De Gaulle soit un fan des Arabes. On connaît de lui des propos très racistes. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français. Vous croyez que le corps français peut absorber 10 millions de musulmans, qui demain seront 20 millions, et après-demain 40 ? Mon village ne s'appellerait plus Colombé les deux églises, mais Colombé les deux mosquées. Encore faut-il se méfier. Ce sont des propos rapportés. Et dans un livre d'Alain Perfitte, pas le témoin le plus fiable du monde. Alain Perfitte est un homme politique. Et ses livres le sont aussi. De toute façon, le 16 septembre 1959, changement de ton chez De Gaulle et à la télévision française cette fois.
Je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui.
Je m'engage à demander d'une part aux Algériens, dans leurs 12 départements, ce qu'ils veulent être en définitive, et d'autre part, à tous les Français, d'entériner ce choix. Bravo, vieille asperge!
Oui.
Quels que soient tes sentiments sur ton colombé de mes deux églises, tu as utilisé le mot « autodétermination ». C'est un petit sésame qui change l'histoire. Et tu as dit le mot « algérien ». S'il y a des Algériens, cela veut dire qu'il y a une Algérie. Ceux qui ne se trompent pas, ce sont les partisans de l'Algérie française. Ils se savent désormais trahis. Ils vont surnommer De Gaulle la « Grande Zora ». Massu lui-même ne cachera pas sa déception dans une interview donnée à la presse allemande. Nous ne comprenons plus sa politique. Notre plus grande déception a été que le général soit devenu un homme de gauche. Tout de suite les grands mots, puis c'est Charles qui se fait alors menaçant. N'oubliez jamais que nous, l'armée, sommes en Algérie et que nous ne l'abandonnerons jamais. Les indépendantistes ont monté un gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA, qui participe aux négociations. Ce sera la phase finale de la guerre. Des pourparlers entre le GPRA et De Gaulle jusqu'à ce que ce dernier finisse par renoncer au Sahara et son pétrole. Il a fallu convaincre De Gaulle de lâcher le Sahara. Il a fini par lâcher le Sahara. Bref, premier référendum sur l'autodétermination des Algériens le 8 janvier 1961. Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le président de la République et concernant l'autodétermination des populations algériennes et l'organisation des pouvoirs publics en Algérie avant l'autodétermination. 75% de oui en métropole, 70% de oui en Algérie. Ce qui va conduire une partie des officiers supérieurs français à se rebeller contre la Grande Zora. Ce sera le putsch des généraux. Les accusés, Pierre Lagaillarde et Jean-Jacques Susini, mis en liberté provisoire pour la durée de leur procès, s'enfuient à Madrid, où ils fondent l'OAS, pour tenter de continuer la présence française en Algérie par tous les moyens. L'OAS, on va retrouver dans ce Marigot un mélange bizarre d'anciens gaullistes déçus, de poujadistes et de membres de l'Action française. C'est une caractéristique très étrange de ma vie que d'être toujours obligé de combattre ceux qui ont été mes amis, dira De Gaulle à Raymond Tourneau. Oui bon, t'es un homme politique, y a pas non plus de quoi s'étonner. L'OAS, c'est une sorte de FLN à l'envers. C'est un FLN de perdants. Le FLN a organisé des attentats pour libérer un peuple, porté par ce dernier contre une minorité d'oppresseurs. L'OAS a organisé des attentats contre le peuple algérien et contre la volonté de la majorité des Français pour remettre au pouvoir une minorité d'oppresseurs. Le fait que l'OAS soit profondément grotesque ne l'a pas empêché d'être nuisible. Son premier objectif aura été de tuer De Gaulle. Ses membres n'ont pas réussi. Rejetant le cessez-le-feu, proclamé le 18 mars 1962, ils vont se retrancher dans leur bastion de Bab el-Oued comme une espèce de Fort Chabrol. L'armée va alors instaurer un blocus autour du quartier. L'OS lance un appel à la population européenne d'Alger pour forcer le blocus par une manifestation. Encore un échec. Alors l'OS va pratiquer en Algérie une politique de la terre brûlée, sabotage du port d'Oran, incendie de la bibliothèque d'Alger, 60 000 volumes disparus en fumée. Merci les mecs. Puis l'OAS va plastiquer en France métropolitaine des personnes ou des organisations considérées par elles comme trop favorables à l'indépendance de l'Algérie. Jérôme Lindon et les éditions de Minuit, la librairie de François Maspero, des professeurs de droit, des journalistes, et même André Malraux. Presque toujours ça merde, leur connerie. Mais ils continuent. Et ils vont continuer longtemps parce qu'ils bénéficient d'une sorte de blanc-seing. C'est que le préfet de police de Paris, Maurice Papon, est beaucoup moins sévère avec l'OAS qu'avec les Algériens. Pour M. Papon, un travailleur immigré sera toujours plus suspect qu'un fasciste. On n'est toujours pas surpris. Ça devient lassant. Le 5 octobre 1961, en métropole, on institue un couvre-feu pour les seuls Algériens. On, c'est notre M. Papon. Les immigrés n'ont pas le droit de sortir dans la rue de 20h30 à 5h30 du matin. Et leurs débits de boissons sont fermés dès 19h. Le FLN invite alors les Algériens vivant en France à se soulever pacifiquement et à faire une grande manifestation contre le couvre-feu. Ils planifient cette manifestation pour le 17 octobre. La manifestation va rassembler 20 000 immigrés, hommes, femmes, enfants, vieillards. Ils sont battus à coups de crosse, abattus par armes à feu et jetés à la Seine, morts ou vifs. 11 000 Algériens sont arrêtés et emmenés au centre d'identification où ils subissent de nombreux sévices. Plus de 120 morts. On jette des bébés dans la Seine. On repêche les cadavres par dizaines. Ce sinistre événement va faire l'objet d'un film essentiel, « Octobre à Paris » de Jacques Panigel, tourné entre octobre 1961 et mars 1962. Dans un premier temps, on y voit la vie des Algériens avant la manifestation, pendant le couvre-feu. On les voit témoigner. Il y a ceux qui ont été pris aléatoirement dans la rue et emmenés dans une cave pour être torturés. Ceux qu'on envoie au camp de Vincennes pendant un temps indéfini, nus, sur le ciment, sans nourriture, obligés de faire leurs besoins sur le sol. Ceux qui ont été déshabillés, attachés, étouffés et violés avec une bouteille. Il y a celui qui s'est fait tabasser chez lui, au milieu de la nuit, à qui on a détruit les affaires et déchiré les vêtements de rage, parce que les flics trouvaient aucune raison de l'inculper. Il y a celui qui a été laissé 5 jours à Vincennes sans un morceau de pain, puis brûlé avec un chalumeau, à qui on a écrasé les parties sexuelles, qu'on a battu à coups de crosse et empoisonné à la javel. Il montre les traces sur ses jambes et sur son poumon. Puis on assiste à la préparation de la manifestation. On voit les étapes, les organisateurs qui précisent pas une arme, pas un geste agressif, pas un cri. On les voit partir des bidonvilles pour se rendre à la manifestation. De la manifestation, on n'a que des photos, mais on sent la panique, la montée d'une angoisse folle. On voit un enfant, le regard, il suinte d'angoisse. Puis ce sont des photos d'Algériens frappés, blessés, écrasés au sol, hurlant. Une image de landau écrasé contre un arbre. Des images terribles. Et après, le film recommence. On voit des Algériens montrer leurs blessures. On voit surtout leur regard de détresse. Et on va parler des enfants. Des enfants traumatisés par ce qu'ils ont vu. Ils ont vu les flics sortir les bébés des landaus et les jeter dans la Seine. Ils le disent.
Les petits bébés qui voyaient les taper puis les jeter dans la Seine.
Il y a aujourd'hui des gens qui disent que les bébés jetés à la Seine sont un mythe. Un mythe ! Mais là, on les voit, les enfants qui témoignent avoir vu des flics jeter des bébés à la Seine. À moins qu'ils mentent, eux aussi. Tous les Arabes y mentent, même les enfants. Qu'est-ce qu'il faut donc encore pour que tout le monde comprenne ?
Que tout le monde est un Youpin, que tout le monde est un Biko.
Demande une voix à la fin du film.
Tout le monde.
Oui. Qu'est-ce qu'il faut donc encore ? Octobre à Paris, encore un film qui va diviser la France, faire exploser ses contradictions. En l'occurrence, la direction des Cahiers du cinéma, les membres de la Nouvelle Vague. Détesté par Éric Rohmer, partisan de l'Algérie française, il est applaudi par Jacques Rivette, qui en fait le document capital de l'histoire de notre temps. Ce 17 octobre ne sera hélas pas la dernière occasion pour M. Papon de s'amuser encore un peu. La gauche organise une manifestation de défense républicaine le 8 février 1962. Que va-t-il se passer ? M. Papon va déployer un dispositif policier volontairement intimidant. Paniqué par la présence policière, la foule s'engouffre dans les escaliers de la station Charonne fermée et s'écrase contre les grilles. Bilan à rajouter à l'addition salée de Papon, après les rafles des Juifs, la répression de la manifestation algérienne d'octobre, 9 manifestants morts. Et tout cela à un mois des accords d'Évian, le 18 mars 1962, et du cessez-le-feu effectif le lendemain. Mais enfin les mecs. L'Algérie ne sera plus jamais française. Fichez-vous ça dans le crâne. L'Empire a presque pris fin. Au moins l'Empire français.
To fix their hearts or die.
Bilan de la guerre d'indépendance algérienne. Très difficile à dire. En 1962, le FLN parlait de 500 000 morts côté algérien, puis Ben Bella de 1 million de morts, puis Boumédienne de 1 500 000. Pour les historiens français, le bilan varie de 350 000 à 500 000 morts. Côté algérien. Côté européen, 24 000 morts militaires français plus 4 000 morts civils. Entre 1 blanc pour 10 et 1 blanc pour 100 arabes. Obscène, vous avez dit obscène. Pour nuancer, après l'embuscade de Palestro et ses 19 morts, on a demandé à l'armée française d'éviter de trop engager les soldats du contingent dans les combats. La plupart des appelés ont servi dans les fortins construits pour quadriller le territoire et affectés dans des postes fixes ou à la garde des barrages aux frontières. Les combats ont été menés soit par les troupes d'élite, les paras, la Légion étrangère, l'infanterie de marine, mais surtout par les supplétifs musulmans, ceux qu'on a appelés les harkis. On a envoyé des Arabes se battre contre les Arabes. Et les Algériens des deux côtés, révolutionnaires et harkis, sont comptés comme victimes indigènes. À noter, je sais, je veux tout le temps vous faire noter des trucs, pardon. Un des protagonistes principaux de cette triste histoire s'en repentira. Tard, certes, mais tout de même. Je veux parler de Massu, le général Massu. C'est à la suite de la publication d'un article de Florence Baugé dans Le Monde en juin 2000, le témoignage d'une ancienne victime de torture et de viol, Louisette Aguilariz, qui dénonce son agresseur, le capitaine Jean Graziani, et qui indique que le général Massu et le colonel Bijard passaient régulièrement le voir. Le lendemain de l'article, deux réactions, et c'est deux salles, deux ambiances. L'ordure Bijard, qui nie tout en bloc et dénonce un tissu de mensonges, et Massu, qui valide le récit et déclare alors au monde à la surprise générale « Quand je repense à l'Algérie, cela me désole. La torture, on pourrait très bien s'en passer. Elle faisait partie d'une certaine ambiance. On aurait pu faire les choses différemment. » La guerre s'achève avec la reconnaissance de l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet 1962 lors d'une allocution télévisée du général de Gaulle.
« La France accepte sans aucune réserve que les populations algériennes se constituent en un État entièrement indépendant. »
1 million de pieds noirs vont donc quitter l'Algérie entre le printemps et l'été 1962. Ce ne sera pas sans déchirement et drame individuel, cela est certain. Mais ça y est, l'Algérie est indépendante. Kateb Yassine est sur place. Dans « Pour un fella inconnu », il décrit les fêtes de l'indépendance. Je cite Kateb Yassine. le premier homme libre que j'ai vu dans les rues d'Alger pendant les fêtes de l'indépendance était un vieux fella qui dansait comme un fou, les pieds nus, la barbe blanche, l'antenne d'un transistor fichée dans son turban. Ce n'était pas pour la chansonnette, c'était de se sentir en communication avec le monde entier. C'était de savoir qu'il y avait beaucoup d'hommes, beaucoup de peuples et de nations dans le vaste univers et que ces multitudes, par la voix des ondes, pouvaient se parler, se comprendre et agir ensemble. Après 1962 et l'indépendance algérienne, deux phénomènes intéressants vont occuper l'extrême droite pro-Algérie française. Premier phénomène, le fait de présenter les immigrés algériens comme des envahisseurs. Avec du recul, c'est énorme. C'est une inversion accusatoire de la taille de l'Empire romain, de la part d'anciens colons, c'est-à-dire d'envahisseurs durant 130 ans et qui ne voulaient pas partir. Todd Shepard a repéré la première mention dans le journal Europe Action, un journal d'extrême droite des années 60, l'invasion algérienne de la France. Et Shepard de commenter au sujet des nouveaux boucs émissaires de l'extrême droite. Si beaucoup en France, à l'extrême droite ou ailleurs, continuaient d'être obnubilés par une supposée menace juive contre la société française, d'autres étaient désormais en proie à une peur racialisée des immigrés algériens. En 1965, le fameux avocat d'extrême droite, Jean-Louis Tixier-Vignancourt, se présente sans succès comme candidat à l'élection présidentielle. Et il dit, sans trembler, « Car si nous étions partisans de l'Algérie française, nous ne sommes pas partisans de la France algérienne. » Deuxième phénomène, l'extrême droite va entretenir une obsession du viol par sodomie liée à cette défaite. Toujours chez Shepard, dans les mois qui suivirent l'indépendance algérienne le 5 juillet 1962, l'extrême droite, qui s'était jetée corps et âme dans une défense désespérée et parfois extrêmement violente de l'Algérie française, recourt à des références au viol sodomite et à la sodomie pour expliquer ce qui s'était passé. Alors que le pays renonçait à l'Algérie, divers organes d'extrême droite rapportèrent que les combattants nationalistes du FLN avaient violé des soldats français. Ces viols sodomites, disait-on, avaient eu lieu au moment où l'armée française abandonnait ses positions pour laisser le FLN entrer dans Alger. Source, comme on dit, alors que les viols commis par l'armée française ont été, eux, longuement et précisément documentés. Habituelle indifférence aux faits de l'extrême droite. Habituelle, pratique, systématique, quasi automatisée, maladive du mensonge. Du mensonge connu comme tel et approuvé comme tel. Une pratique du mensonge que l'extrême droite a justifiée, validée et pourrait-on dire théorisée dès ses commencements avec l'éloge par son inventeur Maurras du faux Henri, le faux patriotique réalisé pour servir à l'accusation de Dreyfus. Mais vous savez, tout cela est vain. Même à moyen terme, même à très court terme, c'est une stratégie de perdant. Les porteurs de valises, les soutiens de l'indépendance algérienne, sont déjà l'honneur de leur époque et ils sont son génie. Cette place avec le centaure de César, pendant très longtemps, a été appelée place de la Croix-Rouge. Croix-Rouge parce que c'est une croix qui déjà remplaçait quelque chose et qui était à cet endroit occupé maintenant par le centaure de César. Cette croix, elle avait remplacé au cours du Moyen-Âge une statue de femme très ancienne qu'on appelait l'idole de Saint-Germain et que certains ont identifiée comme la déesse Isis et devant laquelle allaient des femmes parturiantes. Et un prêtre de Saint-Germain-des-Prés, qui n'était pas alors une simple église, mais un monastère, a pété un câble de cette tradition païenne de femmes qui allaient voir cette idole pour que se passe bien leur accouchement. Et il a un jour pris un maillet et il a cassé la statue qui était de la déesse Isis, ou en tout cas d'une idole païenne. Il a remplacé ça par une croix rouge, et cette croix a disparu lors de la Révolution, à mon souvenir. Ce moment-là n'a pas été révisé pour l'épisode, c'est juste parce que nous sommes allés sur la place du centaure de César, qui aujourd'hui s'appelle la place Michel Debray. Or, Michel Debray, dont on a vu dans l'épisode certaines des inepties qu'il a pu prononcer, et même pire, un crime qu'il a commandité. Alors, Michel Debray, certes, il a écrit notre Constitution, la Constitution de la Ve République. C'était vraiment l'affidé du général de Gaulle. Son mignon, au sens démoniaque du terme, quoi. Son démon mineur, son supplétif démoniaque. Les livres. Pendant un moment, j'ai lu beaucoup de livres pour cet épisode, mais pendant un moment, j'avais pensé faire, pour les livres, un spécial édition de minuit, parce que les éditions de minuit, tenues par Jérôme Lindon, ont vraiment été l'honneur de l'édition française pendant la guerre d'Algérie. Peu d'éditeurs, pas d'éditeurs en fait, ont tenu aussi fermement la question anticoloniale et ont été, comme les éditions de minuit, comme Jérôme Lindon qui a créé les éditions de minuit, qui est aussi l'éditeur de Beckett et du Nouveau Roman, Jérôme Lindon a publié tous les livres possibles et imaginables dénonçant les crimes de l'armée française en Algérie. Alors, parmi les grands livres publiés par les éditions de minuit, il y a ce livre document La Gangrène. La Gangrène, ce sont les témoignages écrits des étudiants algériens qui ont été torturés par la police française, par la DST en fait, rue des Saussets à Paris. Donc c'est des tortures qui ont été faites sur le sol parisien, sur ces jeunes Algériens innocents. C'est ce livre, ça fait partie des livres que l'entonnoir Michel Debré a dit être des tissus d'affabulation et de mensonges, genre commandité par le Parti communiste ou par le FLN, ou c'est pareil. Et on a ce livre essentiel, très connu, régulièrement réédité. Quoi, ces livres-là sont réédités, hein, on les trouve. Ce livre très important du journaliste Henri Alleg, La question, qui est aussi la description minutieuse, extrêmement bien écrite, un crève-cœur, de sa détention et ses tortures par l'armée française à Alger. Ce livre, bon, il y en a aussi dans La Gangrène, mais dans ce livre-là, il y a vraiment, en plus, les noms des militaires qui vont dire « c'est la Gestapo, on est des SS, etc. etc. » La nostalgie du nazisme chez les militaires français en Algérie, la façon dont, en fait, ils se sont identifiés aux nazis dans cette pratique. Avec précision, le problème, voilà, les militaires qui pratiquent la torture, ce n'est pas le plus grave, loin de là. Pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait des politiques qui l'autorisent. Les politiques, après, ils font « j'étais pas au courant, ça n'existe pas », ou alors « ce sont des individus isolés qui sont méchants et c'est un homme cruel ou un homme méchant qui a fait ça ». Et non, c'est des choses qui ont été décidées. C'est ce que pensait Pierre Vidal-Naquet, qui est aussi dans mes livres. « La raison d'État », ça c'est un recueil de documents, c'est passionnant. Des déclarations de Michel Debré, des arrêtés du lieutenant-colonel Barada, un rapport remis à M. Delouvrier, un rapport de la DST, une note du colonel Argout, etc., etc. En fait, on a un ensemble de documents, de notes, de militaires et de politiques, et d'interventions et de déclarations. Ça commence avec Mendès France et Mitterrand, et ça va jusqu'à De Gaulle, qui nous aident à voir précisément ce qui a été caché par le gouvernement français par rapport aux actions de l'armée française. Tout ça publié et expliqué par Pierre Vidal-Naquet. Magnifique. Et c'est Pierre Vidal-Naquet qui disait « Pour qu'il y ait un massu, il faut qu'il y ait un coty ou un mollet. » Et c'est bien évident. C'est bien évident que ces militaires n'ont pas décidé toutes ces choses-là d'eux-mêmes, par pure méchanceté. Non seulement ils ont été couverts, mais ils ont été autorisés et des fois conseillés. Donc c'est très grave et c'est important de se référer aux documents eux-mêmes. Et ces documents ayant été publiés et pouvant être consultés, autant le faire pour arriver vraiment à comprendre non seulement comment les choses se sont passées, mais comment aussi on a essayé de les masquer, de les diminuer, de les orienter de telle sorte à ce qu'on a créé du flou, quoi. Quelle figure et d'avocat et de penseur, tout de même, Jacques Vergès. Oui, c'est un personnage controversé, comme on dit. Mais le Vergès de la guerre d'Algérie est essentiel pour comprendre ce qui s'est joué, aussi pour comprendre la défense des Algériens et de ceux qui les ont aidés. Jacques Vergès, ce livre de la stratégie judiciaire, il va sortir après, pendant la guerre d'indépendance algérienne. Il a fait un fascicule avec Georges Arnaud, qui est comme un manifeste pour Djamil Abouerhed. Mais en 68, il va sortir de la stratégie judiciaire, qui est son livre de réflexion sur ce que doit faire un avocat. Et donc, en fait, tout l'enjeu de ce livre, c'est de définir ce que c'est que la défense de rupture. Et donc, ce livre-là part de Saint-Just et de Robespierre, qui, eux, ont fait pas une défense, mais une accusation de rupture, c'est-à-dire le moment où ils disent « cet homme est roi, et alors la révolution ne peut pas avoir lieu, ou alors cet homme n'est pas roi, ou cet homme est un traître, et dans ces cas-là, il doit mourir. » Et donc, l'accusation de Saint-Just ou de Robespierre. Qui fait cuit-cuit, l'oiseau Robespierre ? Coucou, mon cher Maximilien. Ensuite, de quoi ? Il va se baser sur les exemples qu'on a traversés dans L'Empire n'a jamais pris fin. Et c'est ça qui m'a passionné, parce que j'ai découvert ce livre, je savais qu'il était Vergès, mais j'ai découvert ce livre pour faire cet épisode. Et j'y ai retrouvé des passages que nous, on a traversés aussi, c'est-à-dire Robespierre, Saint-Just, Babeuf et Eugène Varlin. Eugène Varlin, c'était cette figure de la Commune qui va être pleurée par Nathalie Lemel, alors que Louise Michel pleurera Théo Ferré lorsqu'elles seront toutes les deux en Kanaki. Eugène Varlin, avant la Commune, avait déjà été mis en accusation. Il faisait partie de la Première Internationale. C'est les internationalistes, c'est vraiment les révolutionnaires. Et face à ces juges, il avait dit... Nous ne sommes pas vous des juges et moi un inculpé, nous sommes deux parties. Exactement comme Babeuf avait dit, nous sommes deux parties. À partir du moment où on considère que le tribunal appartient à un monde qui n'est pas le monde dans lequel nous, on se considère vivre, alors il y a rupture. Parce qu'en fait, c'est deux mondes qui se rencontrent, c'est deux mondes qui s'opposent. Et en fait, on transforme à ce moment-là le procès en un moment de guerre, un combat. Et c'est pourquoi la stratégie Vergès est une stratégie, c'est aussi, il y a une personnalité de provocation, défense de rupture, mise en accusation des juges, remise en cause de leur aptitude à juger une affaire, et en l'occurrence à juger des Algériens qui sont des résistants à une occupation, l'occupation française, et non des criminels ou des terroristes. Et donc, à partir de ce moment-là, la rupture entraîne une impossibilité, on va dire, de trouver un accord, même si cet accord serait de l'ordre d'une peine de prison aménagée ou un truc comme ça. Ça va être la peine la plus lourde. Mais celle-ci va devoir être compensée par une activité médiatique si grande que, derrière, ils vont être acculés à la grâce. Quoi, j'ai parlé de tous les livres ? Non ! Alors, je disais, au départ, je voulais ne faire que sur des bouquins d'Édition Minuit. Mais il y a un livre qui est trop bon, qui est vraiment un des meilleurs livres que j'ai lus pour cet épisode et que je veux quand même pouvoir montrer. Et ce livre-là, c'est un livre aux éditions de La Découverte de la psychiatre Karima Lazali, psychiatre et psychanalyste Karima Lazali, Le trauma colonial. Excellent livre, Le trauma colonial. Les porteurs de valises, les soutiens de l'indépendance algérienne sont déjà l'honneur de leur époque. Un peu comme la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale, les porteurs de valises incarnent quelque chose. Un sens de l'humanité, un sens de la justice, un sens de la vérité et de l'honnêteté, un désintéressement et une intégrité qui feront toujours défaut aux autres. Tous ces petits garçons, hypnotisés par une vision romaine, césarienne, napoléonienne de la grandeur. On peut même dire hitlérienne, franchement. L'honneur de l'époque, c'est le film « La bataille d'Alger » de Gillo Pontecorvo, réalisé en 1965, seulement 3 ans après la fin de la guerre. Une adaptation des mémoires de Yassef Saadi, où celui-ci joue, pour ainsi dire, son propre rôle. Les acteurs sont presque tous des non-professionnels, à part Jean Martin, signataire du Manifeste des 121, acteur au théâtre chez Roger Blin et au cinéma chez Jacques Rivette. Jean Martin qui joue ici le colonel Mathieu, un personnage imaginaire de chef des parachutistes appliquant la torture, non par cruauté personnelle, mais parce qu'elle est la conséquence de la volonté de l'État français de rester en Algérie. En ne présentant pas l'adversaire principal des Algériens comme un sadique, le film fait preuve d'une grande intelligence politique. Il reporte les foutes, non sur un individu, mais sur le système colonial lui-même. Très brièvement projeté en France en 1970, la bataille d'Alger est rapidement retirée des écrans sous la pression d'anciens combattants et de menaces d'attentats. Et ça ne va pas s'arrêter là. En 1980, un cinéma qui le projette à Béziers est plastiqué. En janvier 81, le cinéma Saint-Séverin à Paris qui le projette est plastiqué lui aussi. Et le film sera diffusé à la télévision française qu'en 2024. Les nostalgiques de l'Algérie française intimident. Ils menacent, ils tuent. Ce sont des agents de la mort. Mais où est leur victoire? La bataille d'Alger, le film, est vu dans le reste du monde et il agit sur les mentalités. La bataille d'Alger de Pontecorvo a exercé une grande influence sur les Black Panthers, par exemple, qui avaient diffusé un tract recommandant aux militants de leur garder. Ils en possédaient même une copie. Aux États-Unis, presque tout le monde l'a vu. Ce film se retrouve jusque dans One Battle After Another, où le personnage de Leonardo DiCaprio le regarde sur sa télé en fumant des joints. La bataille d'Alger est l'honneur de cette époque. Et le génie de cette époque, c'est Frantz Fanon, psychiatre et philosophe, engagé auprès des indépendantistes algériens dès le début de la guerre. Fanon, qui donne sa démission au médecin-chef de l'hôpital psychiatrique de Blida-Joinville en novembre 1956 et est expulsé d'Algérie en janvier 1957. Son chef-d'œuvre, Les Damnés de la Terre, né de son expérience lors de la guerre d'Algérie. En hommage, deux hôpitaux en Algérie, celui de Blida justement, et celui de Béjaïa, portent désormais son nom. Fanon a théorisé la nécessité de la violence dans les guerres de libération de l'oppression coloniale. Je cite Fanon. La violence est ainsi comprise comme la médiation royale. L'homme colonisé se libère dans et par la violence. Cette praxis illumine l'agent parce qu'elle lui indique les moyens et la fin. Mais c'est parce que la violence vient initialement du régime colonial lui-même. Le régime colonial est un régime instauré par la violence. C'est toujours par la force que le régime colonial s'est implanté, ça a duré dans le temps et fonction du maintien de la violence. Violence dans le comportement quotidien, violence à l'égard du passé qui est vidé de toute substance, violence vis-à-vis de l'avenir, car le régime colonial se nomme comme devant être éternel. Le génie de cette époque, c'est aussi Jean Genet, qui seulement 4 ans après l'indépendance, écrit une pièce de théâtre folle à partir de la guerre d'Algérie, Les Paravents, avec Maria Cazares, mise en scène de Roger Blin au théâtre de l'Odéon à partir du 16 avril 1966. J'ai revendiqué la pièce parce que j'avais le sentiment d'avoir le droit de la monter, ayant été l'un des signataires du fameux manifeste des 121, dira Roger Blin. Blin, lui aussi le génie de cette époque, Coucou Michel, découvert par Artaud, devenu le metteur en scène de Beckett et de Genet. Blin, acteur bègue et metteur en scène souvent silencieux, mais au silence fertile, comme disait celle qui fut sa compagne, Hermine Caragueuse.
Renvoyez à vous-même ce silence. Il est très fertile. Il y a des silences fertiles.
Non seulement tous les acteurs, auteurs et metteurs en scène ayant signé ce manifeste s'étaient vus interdire d'antenne à la radio et à la télévision pendant 1 an, mais même les films qu'ils avaient tournés dans le passé ne pouvaient pas être diffusés. Les Paravents sont la seule fois, dira Genet, où il a éprouvé de la jubilation d'écrivain. La pièce rendra dingue l'extrême droite, en particulier le groupe Occident, dont faisaient partie à l'époque Alain Madelin, Gérard Longuet et Patrick Devedjian. Occident va jeter des rats sur la scène, lancer des gaz lacrymogènes dans la salle, envahir la scène. Alain Madelin et Jean-Marie Le Pen vont se retrouver côte à côte pour bloquer l'entrée du théâtre. En vain, Genet, ce génie poétique, troublé dense, inquiétant et éblouissant, que la presse d'extrême droite va vomir, rejointe par la gauche bourgeoise qui le détestera tellement. Genet est déjà immortel. Il a déjà rejoint Villon et Mallarmé. Genet va se retrouver aux côtés des Black Panthers, des Palestiniens. David Bowie va lui consacrer une chanson dès 1972. Le Jean Genet. Le génie Genet. C'est pas moi qui le dis, c'est Bowie. You think of that, people. Le génie de cette époque, c'est encore Niko Papadakis et son film Gloria Mundi en 1976, dans lequel une actrice prépare, en se baladant avec une bombe artisanale et en se torturant elle-même avec une gégène, le rôle d'une combattante de la guerre d'Algérie. Papadakis, de père grec et de mère éthiopienne, devenu une grande figure du Paris d'après-guerre, bistrotier, avec La Rose Rouge où démarrèrent Boris Vian et Juliette Gréco, et cinéaste majeur, dont 3 des 5 films évoquent, plus ou moins directement, les rapports entre Français et Algériens. Gloria Mundi sort le 7 avril 1976 à Paris. Dans la nuit du 10 au 11 avril, un cinéma qui le programme, le Bilboqué, est plastiqué. Dans un autre cinéma qui le diffuse, le Marbeuf, une bombe est désamorcée. Le syndicat des salles de cinéma décide de retirer Gloria Mundi de l'affiche. Il sera repris, remonté et ressortira en 2005, produit par Sycomore Film. Coucou Thomas. Dans Gloria Mundi, une scène rejoue même la répression sanglante de la manifestation d'octobre 1961, avec les flics qui jettent les Arabes dans la Seine. Niko Papadakis, plus poète que politique, fait dire à son personnage Galaï, joué par Olga Carlatos, « Personne, personne ne peut empêcher le jeu de vie et de mort. »
De ceux qui n'ont que ça.
La guerre d'Algérie n'a pas été un moment d'intense politisation que pour les Algériens. Il l'a été pour tout le monde. Il a été pour les Français, qui ont pu, du moins certains d'entre eux, sentir cette contradiction dans leur chair et abandonner pour de bon la Césaromanie et la Napoléomanie qui ont été les plaies de leur histoire. Parce qu'il est temps d'imaginer autre chose. Vous ne croyez pas ? Autre chose que l'impérialisme, que cet enfer de la mentalité humaine, aujourd'hui affirmé plus fort que jamais par les États-Unis, le dernier empire. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est le monde dans sa totalité qui est perçu par les États-Unis comme sa colonie. Il va falloir un jour en finir avec lui sous peine d'en crever. Il faut mettre les États-Unis sous tutelle, leur interdire d'avoir une armée, demander à sa puissance colonisatrice et occupante de quitter les postes de pouvoir, peut-être même de quitter les terres d'Amérique tout court. Non, les États-Unis ne dureront pas toujours. Un jour, les Amérindiens récupéreront leurs terres et les Blancs devront partir. Un jour, la tristesse disparaîtra.
One day the sadness will end.
Qu'est-ce qu'il faut donc encore pour que tout le monde comprenne que tout le monde est un youpin, que tout le monde est un bico? Qu'est-ce qu'il faut donc encore pour que tout le monde comprenne que tout le monde est un Amérindien, que tout le monde est un Palestinien? L'honneur et le génie de cette époque, ce sera encore et toujours Kateb Yassine, qui s'installera en Algérie après l'indépendance, devra le quitter au bout de quelques mois, y retournera 10 ans plus tard et achèvera dans les années 80 son œuvre en français par une pièce sur Robespierre. Le bourgeois sans culotte ou le spectre du parc Monceau. Le parc Monceau, à Paris, jouxte le cimetière des Érancy, aujourd'hui disparu, où Robespierre, Saint-Just et les 20 autres victimes de Thermidor ont été brûlés à la chaux et jetés dans une fosse commune. Montée à Arras en 1984, dans la ville natale de l'incorruptible, reprise à Avignon en 1988. La pièce de Kateb Yassine est une fantaisie terrible, traversée par les fantômes de la Révolution française, de la Commune de Paris, et de la guerre d'indépendance algérienne. Les massacres du Champ de Mars se mêlent à ceux de Sétif et Guelma, auxquels avait assisté le jeune Kateb Yassine. Robespierre y retrouve Éléonore, la fille du citoyen Duplé chez qui il logeait, et qui est devenue la République. Mais quelle République ? Quelle République ? Demande Éléonore. La première ? Elle est morte d'un coup d'état militaire que tu voyais venir en la personne de Bonaparte. La deuxième République ? Elle est morte étouffée, entre deux empires. Et la troisième fut victime, une fois de plus, d'un militaire, le maréchal Pétain, qui la sacrifia à la botte nazie. La quatrième, elle fit ses premiers pas avec un autre, encore un autre militaire, le général de Gaulle. Il n'hésita pas à la supprimer pour fonder à son tour la Ve République, née de la guerre d'Algérie. Ainsi, la République fut souvent reversée d'un militaire à l'autre, mais toujours elle se relève avec le souvenir de son premier amant, Maximilien Robespierre. Encore une fois, une dernière fois, non. La France n'est pas seulement Clovis, Charlemagne, Saint-Louis, Richelieu, Louis XIV, Colbert, Napoléon, Pétain, Mitterrand, Le Pen.
Qu'est-ce que c'est ? Eh, mais c'est les minables !
La France, c'est aussi Jeanne d'Arc, Villon, Rabelais, Rousseau, Robespierre, Nerval, Louise Michel, Rimbaud, Artaud, Genet, Ciné ! Ciné ! Parce que le génie de cette époque, c'est enfin... Ciné, le dessinateur, Ciné. Ciné, ses cibles, écrasées par lui comme des moustiques, militaires, flics, prêtres, politiques. Ciné, le parisien buveur et fêtard, soutien des indépendantistes algériens et ami de Malcolm X. Ciné, défenseur du FLN, qui apportait des polars à Ahmed Ben Bella lors de sa détention en prison et qui transmettait les lettres de Ben Bella à Fidel Castro à Cuba. Ciné, le contraire de Le Pen, le vrai Gaulois, parce qu'antiraciste et anticolonialiste, ce que tout vrai Gaulois devrait être, sinon tu n'es qu'un Romain. Ciné, accusé de ne pas dessiner français, et à qui Djamila Bouéret décrira, c'est tout à votre honneur, et c'est pour cela que nous, Algériens, vous aimons. Ciné, que quelques salopards, quelques nuls pathétiques, menteurs, truqueurs, barbouilleurs, embrouilleurs, essayeront vainement de salir à la fin des années 2000 à la suite d'une chronique dans Charlie Hebdo. Chronique où il se moquait de l'arrivisme d'un des fils de Sarkozy, Jean, qui annonçait sa volonté de se convertir au judaïsme pour épouser l'héritière d'Arty. chronique, à la suite de laquelle plusieurs salauds tenteront le qualificatif infamant d'antisémite et tomberont sur un os géant, un os de ptérodactyle. Parce qu'on ne fait pas tomber ciné comme ça, même en groupe, même à plusieurs, et certainement pas pour antisémitisme. Les plusieurs, c'était Elisabeth Badinter, Pascal Bruckner, Laurent Geoffrin, Elisabeth Roudinesco, Johann Sfar et Bernard-Henri Lévy surtout. Tous profondément colonialistes dans l'âme, tous civilisateurs, avec au centre leur grand ami, le grand détourneur de l'esprit Harakiri, le fossoyeur de Charlie, le coucou qui cague dans le nid des autres, le ridicule et répugnant Philippe Val. Ça y est, oui, on y est. On va en parler dans le prochain épisode. Harakiri contre Charlie, notre avant-dernière guerre. Merci d'avoir vu cet épisode de L'Empire n'a jamais pris fin et rendez-vous dans un mois pour le suivant. Si celui-ci vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à Blast, activez la cloche. Les 7 épisodes diffusés l'année dernière font désormais l'objet d'un livre aux éditions Florent Marceau et Blast, L'Empire n'a jamais pris fin, tome 2, de Rabelais à la Révolution. Il contient un texte supplémentaire, quid de Sade. Alors, si vous n'aimez pas cette interprétation de la guerre d'indépendance algérienne comme appartenant, non pas au passé, mais toujours au présent, cette vision des porteurs de valises du réseau Janson, des partisans de l'indépendance algérienne, comme l'honneur et le génie de leur époque, ne regardez pas les autres épisodes. Franchement, ce serait juste de faire du mal. Image, Cyprien Bizot. Assistant montage, Mehdi Lacal. Graphisme, Margot Simon. Graphisme, Morgane Sabouret. Musique, Baptiste Veillant. Son, Théo Duchesne. Réalisation, Mathias Enthoven. Réalisation et montage, Ameyès Aitoufela.